Bonsoir les amis. Levons-nous un moment et inclinons nos têtes pour la prière. Notre Père Céleste, en écoutant ce beau cantique, nous pensons, Seigneur, que tu es près de nous. Et nous te prions de nous recevoir ce soir, Seigneur, comme tes enfants, nous pardonnant tous nos péchés et nos transgressions, et nous accordant tes bénédictions, alors que nous sommes un peuple nécessiteux, dans cette heure glorieuse dans laquelle nous vivons maintenant. Et nous constatons que ce monde s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres et que le retour du Seigneur s'annonce de plus en plus lumineux alors qu'il se révèle dans sa parole et dans sa manifestation. Nous nous sommes de nouveau réunis ce soir, Seigneur, pour assister à cette réunion et te prier de nous ouvrir, Seigneur, ce troisième sceau de ce livre, afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire et comment vivre et comment être de meilleurs chrétiens. Je te prie, ô Dieu, de faire que tout chrétien ici réalise qu'il a besoin de toi, accorde-le. Et je prie, Père Céleste, que chaque chrétien né de nouveau réalise qu'il doit vivre plus près de toi que par le passé, afin que nous puissions tous être dans cette unité de l'amour chrétien et de la foi. Permets que toute personne malade se trouvant parmi nous soit guérie ce soir. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de toi. Et je te prie, Père, de bénir tout ce qui sera fait ou dit pour ton honneur et ta gloire. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. À nouveau ce soir, nous nous sommes assemblés ce mercredi soir de la semaine et nous avons confiance ce soir que le Seigneur va répandre ses grandes bénédictions sur sa parole. Aujourd'hui, j'ai étudié comme d'habitude, essayant de penser à ce qui serait plus approprié de dire et comment le dire, et je compte sur le Seigneur pour me donner l'interprétation et les significations de cette parole qui est écrite. Et je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine, pour l'ouverture de ces sceaux. Peut-être que ce serait une bonne chose, dimanche matin, vous savez bien souvent, nous ne voulons pas être mal compris, mais c'est ainsi. Ainsi peut-être dimanche matin, tous ceux qui ont une question à la pensée pourraient l'écrire et le déposer ici sur la chaire afin que je puisse voir et essayer d'y répondre dimanche matin, Dieu voulant. Je pense qu'il est préférable que nous fassions comme cela parce que parfois il y a des incompréhensions et il vaut mieux mettre ces choses au point. Ce qui devrait être. Et quelqu'un m'a téléphoné aujourd'hui, il a dit, il voulait savoir s'il était vrai qu'au moment de l'enlèvement, il n'y aurait qu'un seul à Jeffersonville et un à New York et les autres viendraient d'outre-mer. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est mal compris. Quelqu'un a dit que si samedi matin, le Seigneur nous donne samedi soir le dernier sceau, alors Jésus serait ici dimanche matin. Voyez, ce n'est pas ainsi. Nous ne savons pas. Si quelqu'un vous dit qu'il sait quand il vient, vous savez qu'il est dans l'erreur pour commencer. Personne ne sait cela. Mais nous voulons vivre aujourd'hui comme si c'était maintenant même. Je vais essayer de vous déboussoler pendant quelques minutes, alors que vous soyez prêts. Je crois que Jésus va venir dans moins de 3 minutes de maintenant, de son temps. Vous savez combien ce serait long? Ça ferait environ 35 ans. Voyez, 1000 ans sont seulement comme un jour. Ainsi, dans leur temps, les apôtres disaient, le temps est proche. Le temps est proche. L'apôtre l'a dit dans l'Apocalypse. Savez-vous combien, depuis combien de temps cela dure? Eh bien, pour Dieu, c'était juste hier, même pas 2 jours. Et voyez, et nous sommes à moins de 3 minutes de sa venue. Ça ferait une trentaine d'années pour nous. Regarde ce que ce serait 3 minutes pour lui. Il est déjà en train de se lever pour venir. Parfois, lorsque vous lisez ici, pensez au fait qu'il parle selon les termes de la parole, pas selon nos termes. Mais si je savais qu'il allait venir demain soir, j'étudierai et je lui demanderai de me donner le message pour le 4e saut. Et je viendrai ici prêcher comme d'habitude. J'aimerais faire chaque jour ce que je ferai le jour où il viendra. Je ne connais pas de meilleur endroit pour être enlevé que celui de mon poste de service, à mon poste de devoir. Ainsi, continuons simplement jusqu'à ce qu'il vienne. Parfois, faites bien attention et lorsque vous recevez les bandes, écoutez-les bien attentivement. Parce que vous les avoir sur bande, nous avons repassé, afin de nous assurer qu'elle soit bien claire. Maintenant, j'espère que tout le monde aime Christ, que chacun l'aime. Je vais vous dire ce qui parfois mène les gens dans la confusion. Il y en a qui viennent au cours de notre étude, à la première partie de la réunion, et alors ils entendent faire référence à quelque chose qui a dit, n'ont pas reçu la première partie, alors tout ça, ça les embrouille, et ils comprennent les choses autrement qu'elles ont été dites. Donc, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, écrivez-le sur un bout de papier, déposez-le ici entre maintenant et samedi soir. Et dimanche matin, si c'est quelque chose qui vous trouble et que vous disiez, je me demande ce que ça voulait dire, je n'ai pas bien compris, j'essaierai d'y répondre dimanche matin, Dieu voulant. Maintenant, ce soir, nous allons lire dans cette parole bénie, à nouveau, dans le 6e chapitre, et nous allons commencer ce soir avec le 3e sceau, versets 5 et 6. Et demain soir, nous aurons terminé les 4 cavaliers, le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et le cheval pâle. Et je vais vous dire ceci, que chaque fois, jusqu'à ce matin, je me suis levé très tôt et j'ai commencé à prier avant que tout s'éveille et j'ai continué à prier toute la journée. Mais ce matin tôt, le Saint-Esprit est venu là où j'étais et aussi clairement que je vous vois, j'ai vu le 3e sceau ouvert. Je sais qu'il m'entend maintenant et je suis très reconnaissant. Souvenez-vous, quelque chose est en train de se produire et j'espère que vous le saisissez. Quelque chose est en train de se passer. Je voudrais une fois tester cette église pour voir si vous pouvez véritablement saisir quelque chose avant que cela ait réellement eu lieu. Maintenant, souvenez-vous ce que je vous ai dit et puisse le Seigneur nous aider. Maintenant, verset 5. Et lorsqu'il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal dire, viens et vois. Et je vis, voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus avait une balance dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux disant, une mesure de froment pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Maintenant, donnons un petit arrière-plan à ceci, basé sur les sceaux que nous avons déjà vus, parce que, comme pour les âges de l'Église, nous essayons de donner un arrière-plan pour montrer comment ils se chevauchent les uns les autres. C'est comme lorsque nous montons un escalier, chacune des marches descend vers nous et passant derrière lorsque nous la montons. Maintenant, ces sceaux, c'est le livre de la rédemption scellé. Tout le monde comprend cela. Et ce livre est scellé avec sept sceaux. C'est un livre scellé de sept sceaux. Maintenant, souvenez-vous, comme nous vous l'avons dépeint et tiré, entre autres, du livre de Jérémie, ils écrivaient comme ceci, sur une feuille de papier, pas de papier, mais c'était plutôt de la peau, ils l'entouraient comme ceci, l'enroulait et puis le bout était laissé comme cela. Ça indiquait ce qui était écrit dessus. Ensuite, le suivant prenait la même position, s'enroulait de la même manière, comme ceci. Et puis à la fin ici, on les séparait comme cela, il en venait un autre. C'est ainsi qu'était le livre scellé de sept sceaux. Ce n'est que récemment que nous avons des livres reliés comme celui que je tiens. Autrefois, les livres étaient des rouleaux. Ils étaient enroulés. Alors, lorsqu'on voulait un sujet ou quelque chose, si la Bible était formée de rouleaux, si vous vouliez lire le livre d'Ésaïe, il fallait le dérouler comme cela jusqu'à Ésaïe pour pouvoir le lire. C'est un livre de la rédemption scellé de sept sceaux. Et nous découvrons maintenant que l'agneau sort, qu'il prend le livre de la main de celui qui est assis sur le trône, qu'il brise les sceaux, il libère les sceaux pour les gens. Et les quatre animaux, assis ici, que nous avons déjà vu dans les âges de l'Église, ces quatre êtres vivants que nous voyons tout au long des Écritures, sont ceux qui publient l'ouverture des sceaux, le brisement. Et nous voyons que c'est un livre de rédemption. Nous sommes revenus en arrière, nous avons trouvé le parent rédempteur, et nous l'avons examiné pour voir quelle était son œuvre. Et durant toutes ces années, Christ a fait l'œuvre du parent rédempteur. Maintenant, tous ceux qui comprennent cela disent Amen. Il a fait l'œuvre du parent rédempteur. Mais un temps viendra où l'œuvre de rédemption sera terminée. Et lorsque l'œuvre de rédemption sera terminée, alors il quittera le trône de Dieu où il est assis maintenant. Mais ce n'est pas son trône. Celui qui vaincra s'assiera avec moi dans mon trône comme j'ai vaincu et que je me suis assis dans le trône de mon Père. Ce n'est pas son trône. Cela appartient à l'Esprit, Dieu, Christ, l'agneau. Il ne lui appartient pas. Il est le Dieu incarné, qui est le même Dieu incarné. Maintenant, il se lève de son trône. Il y a premièrement l'annonce qui est capable de venir prendre ce livre de la rédemption. Car tout le plan de la rédemption, depuis Adam, tout ce que Adam avait perdu, rien n'était perdu jusqu'à Adam. Mais après Adam, tout fut perdu sur la terre, toute la création sur la terre était perdue, et tout est tombé avec Adam. Il a franchi l'abîme de sorte que plus personne ne pouvait revenir en arrière. Il n'y avait plus aucun moyen. L'homme, lorsqu'il pécha, se coupa de tout chemin de retour. Lorsque cette question fut posée, Jean le révélateur, le prophète Jean, était dans la vision et il a vu. Il n'y avait aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre, aucun homme sous la terre, ou personne qui était même digne de regarder le livre. Voyez? Pensez à cela. Alors l'agneau s'avance et il prend le livre. Alors il fut dit à Jean de ne plus pleurer. L'ancien lui dit, voici, le lion de Juda a prévalu. C'est lui qui peut prendre le livre et l'ouvrir. Il se tourna pour voir un lion et il vit un agneau. L'ancien avait dit, un lion a vaincu. Mais lorsqu'il vint et regarda, c'était un agneau qui est sorti du trône. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant. Pourquoi? Il était là-bas, derrière son trône d'intercession, car il saignait pour les gens, intercédant pour les gens, jusqu'à ce que la dernière âme qui avait été inscrite dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde fut entrée. Il y en aura un certain nombre et c'est tout. C'est tout. Les autres ne veulent même pas entrer, ils n'ont aucun désir d'entrer. Ainsi donc, quand cette dernière âme entrera, le temps de la rédemption sera terminé. Alors l'agneau s'avancera pour réclamer ses droits sur ce qu'il a racheté. Et c'est toute la création. La terre lui appartient avec tout ce qu'elle contient. Vous voyez, il a racheté par son propre sang. Et lorsqu'il s'avança pour prendre le livre et l'ouvrir, oh là là, Jean ne pleurait plus. Il regarda. Et cet agneau était un agneau immolé. Il avait déjà été tué, mais il était de nouveau vivant. Et nous découvrons qu'un agneau immolé est un agneau sanglant. Il saigne partout. Il a été immolé. Après avoir été immolé, il est ressuscité et s'est assis sur le trône, là-bas, derrière le trône, comme ceci, intercédant pour toutes ces âmes qui viendraient. Lorsque la dernière fut là et que leur nombre fut complet, Dieu tenait encore le livre de la rédemption. Maintenant, il accomplit l'œuvre du parent rédempteur, comme Boaz descendit et que Ruth, assise là, attendait jusqu'à ce qu'il ait Boaz, que Boaz ait accompli l'œuvre de parent rédempteur. Vous vous souvenez, lorsque j'ai prêché il n'y a pas longtemps, Ruth glanant, tout ce qu'elle a fait, la dernière chose, c'était Ruth attendant. Rappelez-vous comment j'ai donné ce type de l'Église, comme Boaz descendit pour accomplir son œuvre de parent rédempteur. C'est ce qu'il a fait. Il a ôté sa chaussure, il a fait un témoignage, et il a racheté Naomi, et par elle, il obtint Ruth. Ainsi donc, Ruth attendait parce qu'elle avait déjà travaillé. Elle avait fait toutes ces autres choses, mais elle attendait. Et alors, tandis que l'Église attend dans le repos, la plupart d'entre eux dans la poussière de la terre, pendant ce temps, il accomplit son œuvre de parent rédempteur. Maintenant, le monde va toujours en empirant, le péché, la maladie, les soucis, la mort, les tristesses, l'homme impie et la femme impie périssent, le cancer et toutes sortes de maladies les dévorent, s'ils ne peuvent acquérir assez de foi pour tendre la main et saisir la guérison. Maintenant, remarquez, lorsque tout fut terminé, après que son intercession eut pris fin, il s'est avancé et a pris le livre de sa main. Et alors Jean dit que tout ce qui est au ciel et les âmes sous l'autel commencèrent à crier. Nous retrouvons ça dans le cinquième sceau. Et combien ils se réjouirent. Et les anciens tombèrent sur leur face et répandirent les prières des saints. Les âmes sous l'autel crièrent, « Tu es digne, car tu nous as rachetés pour Dieu, et nous allons retourner sur la terre pour y vivre comme des rois et des sacrificateurs. » Jean dit que toute créature dans le ciel, toute chose sous la terre, tous l'ont entendu louer Dieu pour cela. Vous savez, Jean doit avoir trouvé son nom écrit dans le livre. Alors, il a dit, « Il est digne de prendre le livre de la rédemption. » Maintenant, il n'appartient plus au juge. Il appartient au rédempteur. Et il a accompli l'œuvre de la rédemption. Maintenant, il va montrer à l'Église ce qu'il a fait. Donc, il prend le livre, mais celui-ci est fermé. Personne ne savait ce qu'il contenait. On savait que c'était un livre de rédemption, mais il devait être révélé dans les derniers jours. Selon Apocalypse 10, le septième ange doit recevoir le message à ce sujet, parce qu'il est dit qu'au jour où retentirait la trompette du septième ange de l'Église, lorsque le septième ange sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu seraient terminés. Après que ce soit révélé, l'ange qui est Christ descend du ciel. Rappelez-vous maintenant que cet ange est sur la terre, c'est un messager. Et Christ descend, vous le voyez, au dixième chapitre de l'Apocalypse. Il pose un pied sur la terre et l'autre sur la mer. Il y a un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux, et ses pieds sont comme du feu. Il lève la main et jure par celui qui vit au siècle des siècles sur le trône qu'il n'y aurait plus de temps. Et lorsqu'il fit ce serment, sept tonnerres firent entendre leur voix, et celui qui écrivait Jean fut ravi en esprit. Il était là pour écrire. Il s'apprêtait à écrire, mais l'ange lui dit, ne l'écris pas. N'écris pas cela. Il a dit, scelle-le. Scelle-le, ne le dis pas, voyez, ça doit être révélé. Mais ce n'est même pas écrit dans la parole. Et alors, quand il a commencé à ouvrir les sceaux, nous constatons qu'ils étaient tous énigmatiques. Lorsqu'il a ouvert le premier sceau, Jean pensa, maintenant il va parler, il va arriver qu'un tel montera sur le trône, il fera sûrement ceci et cela. Mais ce qui est apparu, ce fut un cheval monté par un cavalier. Il avait un arc dans la main, il a reçu une couronne un peu de temps après, c'est tout. Puis l'agneau s'est retourné, il brisa un autre sceau, et un cavalier sortit sur un cheval roux. Et une épée lui fut donnée. Et il partit pour faire la guerre. Une grande puissance lui fut donnée pour ôter la paix de la terre et pour que les hommes s'entretuent. Voilà encore quelque chose de mystérieux lorsqu'il l'ouvrit, n'est-ce pas? Ensuite, cela continue et il dit que le jour précédent, juste ces sept tonnerres, tous ces mystères ici sont révélés. Maintenant, regardez. Alors, nous découvrons, comme nous avons étudié, qu'au cours des âges, nous avons eu des réformateurs, pas des prophètes, des réformateurs. Chaque office accomplit son œuvre propre. C'est comme un opérateur téléphonique, il n'est pas exactement un électricien. Il pourrait faire certains petits travaux d'électricien. Si un homme creuse les trous pour les poteaux et qu'il n'ait jamais travaillé à poser des lignes, il ne faut pas qu'il s'en occupe. Tout au plus pourrait-il faire quelques petits travaux de préparation. Mais quand la chose réelle doit être révélée dans les derniers jours, de la dernière partie de l'Église, c'est lorsque Dieu a dit qu'il nous enverrait, selon les Écritures, et nous l'avons sondé de part en part, qu'il a prédit que l'esprit d'Élie reviendrait dans une personne. Maintenant, je pense que cela a été rendu clair. Et nous nous attendons à ce que cela arrive. Dans les derniers jours, il y aura une personne ointe qui se lèvera quelque part. Maintenant, vous entendrez une quantité de fanatiques et toutes sortes de choses. C'est le diable qui essaye de détourner les gens du véritable prophète. Mais il sera correctement identifié. Vous savez ce qu'Élie était. Observez bien, vous le reconnaîtrez. Les élus le reconnaîtront, mais pas les autres. Assurément, ils ne le reconnaîtront pas. Ils le manqueront des millions de miles. Nous avons parcouru toutes ces choses et montré comment ils ont manqué Jésus. Élie, ils ont manqué Jésus. Et Jean, et ils les ont manqués tout le long du chemin. Et ils le feront pareillement parce que la Bible le dit. Alors en ce temps-là, ce sera très humble. Ce sera si simple. C'est ce qui fera que les gens tomberont loin de cela. Ce sera trop simple pour eux. Nous découvrons toujours que les gens deviennent intelligents et instruits et connaissent un tas de choses et que c'est justement ce genre de personnes-là qui le manque. Jésus n'a jamais pris cette sorte de gens pour faire ses disciples. Il a pris des gens sans instruction, des pêcheurs. Aucun d'eux n'était connecté avec des églises. Il a pris pour accomplir son œuvre des hommes ordinaires, des percepteurs d'impôts, des paysans, des pêcheurs, etc. parce qu'il savait qu'il n'était rien. C'est pour cela qu'il pouvait faire quelque chose d'eux. Vous voyez, aussi longtemps qu'ils restent dans la connaissance, qu'ils ne sont rien, Dieu peut agir. Mais lorsqu'ils commencent à penser qu'ils savent quelque chose, alors la Bible dit que vous ne savez rien de ce que vous devriez savoir. C'est ce que nous constatons. Maintenant, nous découvrons que ces mystères doivent être révélés. Pourquoi donc ces autres hommes, Wesley, Luther et tous ces grands réformateurs qui ont apporté la justification, la sanctification et l'âge de la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit et tout le reste, pourquoi n'ont-ils pas saisi ces messages? Pourquoi ne les ont-ils pas reçus? Parce qu'ils étaient des réformateurs. Vous voyez? D'autre part, il y a aussi ces personnages qui entrent en scène ayant le pouvoir comme des rois, mais qui n'étaient pas des rois, vous voyez. Donc faites attention à la terminologie biblique de chaque chose. Maintenant, faites attention. Certaines choses sont demeurées mystérieuses dans la justification, la partie mystérieuse de la sanctification, la partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit. Eve a-t-elle mangé une pomme, une grenade ou quelque chose d'autre? Oui. Qu'est-ce que c'était la semence du serpent? Est-ce que le baptême au nom de Père, Fils, Saint-Esprit ou le baptême du nom au nom du Seigneur Jésus-Christ? Des centaines de ces choses sont restées en suspens. Alors à la dernière heure, ce personnage doit venir et révéler les choses. En prenant les Écritures, il sera proprement identifié. Maintenant, ce ne sera pas une grande chose, grandiose. Pourtant, la Bible, il semblait que ce serait quelque chose d'imposant. Le ministère de Jean ne devait-il pas être encore beaucoup plus grand lorsqu'il descendit pour baptiser? Pensez seulement à ses anciens prophètes, Isaïe, Malachie, Ils ont tous parlé de lui et annoncé sa venue. Et lorsqu'il est venu, c'était un simple homme solitaire, sans instruction, la face couverte de barbe, les cheveux en désordre, drapé d'une vieille peau de mouton et n'ayant pas d'instruction. Pour autant que nous le sachions, il n'avait jamais été un seul jour de sa vie à l'école. Et le voici sortant du désert, n'étant le bienvenu dans aucune chair, se tenant là-bas, au bord du Jourdain, et il commence à appeler les gens à la repentance. Pouvez-vous imaginer? La Bible dit que ce jour-là, tout serait si grandiose que toute montagne serait abaissée et que toute vallée serait comblée et que tous les chemins raboteux seraient aplanis. Je peux m'imaginer comment les gens ont dû penser que Jean, ce grand précurseur de Christ, apparaîtrait, viendrait aplanir le désert et y faire pousser de l'herbe. J'imagine qu'ils s'en étaient fait une idée, bien arrêtée, comme ils le font aujourd'hui, mais c'était si humble que même les apôtres l'ont manqué. Ils disaient, les Écritures disent qu'Élie doit venir. Premièrement, il a dit, il est déjà venu, et vous ne l'avez pas reconnu. Le Fils de l'homme, ils feront la même chose. Mais ils ont dit, ils ont fait de Jean ce qu'ils ont voulu, ils ont fait de lui ce qu'ils étaient censés faire. Et il a dit, de même, le Fils de l'homme doit souffrir. Je pense qu'il n'y a pas dû y avoir un tiers de toute la race juive qui se soit jamais aperçu de ce que Jésus-Christ était sur la terre. Certains ont peut-être entendu dire qu'il y avait un fanatique quelque part, mais ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont simplement continué leur route. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'a pas été dit qu'il reviendrait secrètement, mais l'enlèvement, lui, sera un secret. Alors, si sa première venue fut secrète, combien plus l'enlèvement passera-t-il inaperçu? Ils diront, « Eh bien, je pensais qu'il devait y avoir un enlèvement, et voilà tous ces jugements sur la terre. Ça a déjà eu lieu, et vous ne vous en êtes pas aperçu. Ce sera comme un voleur dans la nuit. » Ça me rappelle un livre que j'ai lu, Roméo et Juliette, est-ce bien ça? Il dressa l'échelle contre la maison, c'est ce qui s'est passé il y a bien longtemps, et il est venu enlever Juliette pendant la nuit. Voilà comment cela se passera. Et ils seront partis. Il n'enverra pas une troupe d'anges avec des bêches pour ouvrir les tombes. La Bible dit que nous serons changés avant même que nous puissions battre des paupières en un clin d'œil. Ça sera terminé aussi vite que ça. On dirait quelqu'un a disparu. J'imagine que si nous cherchions dans le monde entier aujourd'hui, nous trouverions qu'il y a peut-être 500 personnes qui disparaissent chaque jour. On ne sait plus rien d'elles. On s'aperçoit simplement qu'elles ont disparu. Il n'y en aura pas tellement qui iront dans cet enlèvement. Maintenant, je ne voudrais pas vous effrayer, et je ne pense pas l'avoir fait, mais je voudrais simplement vous dire ce qu'il a dit, et vous le savez vous-même. Comme il en fut au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées par les eaux. 8 âmes dans le monde entier, sauvées par les eaux. Et si vous dites, oh là là, c'est inutile que j'essaye, cela montre que vous n'avez pas le genre de foi dont vous avez besoin. S'il n'y en a qu'un, ce sera moi, parce que je crois en lui. C'est ainsi qu'il faut croire. Ce sera moi. Je veux vivre si près de lui que je sache qu'il va m'enlever lorsqu'il viendra, je le crois. Même si tous les autres le manquent, moi j'y serai, par sa grâce, parce qu'il me l'a promis. Et je sais que j'y serai, car il ne peut pas mentir, et je sais que mon âme et ma vie en rendent témoignage que j'essaie de vivre chaque jour comme s'il allait venir. Ainsi, je serai celui-là. Voilà. Et quels doivent être vos sentiments? S'il doit y en avoir 8, je serai l'un des 8. 500, je serai l'un des 500. Je ne sais pas les autres, mais ce que je sais, c'est que moi, je serai l'un des 500. C'est de cette manière que vous devez vous en souvenir. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelque chose ne va pas avec votre foi. Voyez, vous n'êtes pas sûr d'être sauvé encore. Vous le devinez seulement. Ne faites pas cela. Très bien. Nous n'allons pas commencer à entrer dans ce seau. Très bien. Je désire, chaque soir, j'espère que ça ne vous dérange pas si je prends un peu de votre temps. Rappelez-vous que la révélation de chacun de ces sceaux ne consiste réellement qu'en un seul verset. Le premier verset constitue l'annonce, le deuxième verset. La plupart des commentateurs étaient, et jusqu'à présent, je l'avais cru comme eux. Et j'ai toujours cru, comme presque la plupart, que le premier cavalier représentait la première Église. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a donné la révélation, j'ai compris que c'était absolument contraire. Voilà tout. Alors, tout ce qu'il fait, il nous montre ce que c'est. Maintenant, pour moi, c'est très sacré. C'est la raison pour laquelle j'aimerais pouvoir répondre à ces questions et faire en sorte que chacun puisse comprendre exactement ces choses, ainsi que ceux qui écouteront les bandes, voyez. J'ai commencé à parler pendant que les gens entraient au sujet de ceux qui se précipitent et entrent en se bousculant. Vous ne devriez pas faire cela. Mais c'est humain, il fait tellement chaud. Et alors, on s'énerve un petit peu. Mais vous avez été très gentil dans ce tabernacle. Je n'ai jamais vu les gens se comporter aussi bien que pendant ces rencontres. Dès que les bébés pleurent, les mamans les conduisent à la nurserie, c'est très bien. Mais j'essaie de présenter le cadre du sujet jusqu'à ce que je sente l'onction du Saint-Esprit sur moi pour dire ces paroles, pour dire ce qui m'a été révélé. Ainsi donc, si à un moment donné, j'ai fait une erreur, sûrement ici devant tout le monde, il la corrigera pour moi. Je veux que tout soit exact. Il ne sert à rien de prendre seulement ce qu'on imagine. C'est quelque chose d'exact et c'est ce que nous voulons. Nous désirons que Dieu nous donne ce qui est juste. Nous nous sommes occupés de ces cavaliers dans l'ordre de leur apparition et nous comprenons que c'était l'Antichrist qui est sorti. Et nous avons vu hier soir que le même personnage qui était d'abord sorti sur un cheval blanc, nous l'avons découvert avec une épée hier soir, en train de chevaucher et de tuer les gens. Vous savez qu'il y a toujours le naturel et le spirituel. Et pour le bien de l'Église, je vais vous donner ce type avant d'arriver à l'ouverture de ce sceau. Je vais vous présenter sous forme de type. Il m'a donné ici plusieurs passages des Écritures, 7 ou 8 pages. Remarquez, je désire donner un type de l'Église et le rendre si clair que vous soyez tenus de le voir. Maintenant, il y avait une épouse naturelle dans le jardin d'Éden. Vous vous souvenez hier soir? Cette épouse naturelle, c'était la fiancée d'Adam. Elle n'était pas encore sa femme parce qu'il ne l'avait pas encore connue en tant qu'épouse. Exactement comme Marie était la femme de Joseph, mais il ne l'avait pas encore connue et elle fut trouvée enceinte. Avant qu'Adam ne connût sa femme, elle était pour lui qu'une fiancée. Et nous découvrons qu'elle est tombée dans le jardin d'Éden parce qu'elle a manqué de tenir à la parole de Dieu. Or, il savait que Satan serait lâché au milieu d'eux. Ainsi, il leur a donné un endroit où se tenir derrière, fortifié. Eh bien, dans quelle meilleure place peut-on être fortifié qu'en Dieu, quand celui-ci essaie de prendre soin de ses propres enfants? Si je voulais protéger mon petit Joseph, frère, et que je sache que sa vie en dépende et que j'ai la possibilité de le faire, si je savais qu'un mur de béton armé de 12 mètres d'épaisseur conviendrait, j'en ferais un de 24 mètres, pour être tout à fait sûr. Et si je pensais de mon petit garçon, dont la vie mortelle sera perdue, je crois qu'un petit enfant est sauvé. À combien plus forte raison Dieu pensera-t-il cela de son enfant qui est perdu pour l'éternité? Derrière quoi va-t-il le placer? Il l'a placé derrière sa propre parole. Aussi longtemps que vous êtes dans cette parole, vous êtes en sécurité. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. C'est ça, la parole. Ève commençait à déambuler dans le jardin et elle a rencontré le serpent, un personnage de manière très séduisante. Maintenant, Ève était de l'autre côté. Dieu vit, demeure et agit dans l'humilité. Jamais d'une autre manière. Maintenant, l'humble petite dame se promenait là et Satan est arrivé comme un être intelligent, habile, avenant. et il voulait lui vendre son programme. Satan pouvait rôder par là aussi longtemps qu'il voulait. Tant qu'Ève restait derrière la parole, tout était bien. Ainsi, laissez Satan faire ce qu'il veut, mais vous restez simplement avec la parole. Ça ne fera aucune différence. Et s'il dit, « Tu es malade. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Tu vas mourir. » Il me ressuscitera. Restez simplement derrière la parole, c'est tout. Christ lui-même s'est retranché derrière la parole. Il est écrit. Restez derrière la parole. Mais Ève, elle a commencé à baisser la garde, mais elle ne l'a pas baissée complètement. Simplement une petite phrase. Et c'est tout ce que Satan voulait qu'elle fasse. Il l'a fait sortir de derrière la promesse de Dieu par le raisonnement. N'essayez jamais de raisonner la parole de Dieu. Croyez-la simplement. Ainsi, Ève est sortie de cette position, et avant même qu'Adam l'a pris pour femme, elle avait déjà été souillée par Satan. Avez-vous remarqué? Christ a fait la même chose. Exactement. Pour la rédemption, Dieu avait à être là le premier. Avez-vous remarqué ce qui s'est passé avec Marie? Avant qu'elle vînt vers Joseph, le Saint-Esprit la couvrit de son ombre. C'est ainsi que le Rédempteur est venu. Maintenant, remarquez, la femme naturelle tomba, mais Dieu fit une voie par laquelle elle put être rachetée. Bien qu'elle soit tombée, il a fait un chemin. Ainsi, c'était la première épouse sur la terre qui est tombée avant que son époux et elle soient mariés. Elle est tombée à cause du raisonnement. Raisonner au lieu de rester avec la parole, elle est tombée. Elle est tombée dans la mort. La séparation éternelle. Elle entraîna son mari avec elle, ainsi que tous ceux qui étaient sur la terre. Elle est tombée. Mais Dieu, plein de miséricorde, fit un chemin pour racheter cette femme. Il lui a fait une promesse en lui disant qu'un jour, dans le futur, la véritable parole viendrait à nouveau à elle, la véritable parole lui serait connue. Maintenant, souvenez-vous, parce qu'il a promis de nous donner Christ par le moyen de la femme, et Christ est la parole. Saint Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Voyez, et a habité parmi nous. Dieu a habité avec nous dans la chair. Il était la parole. Avant qu'il y ait une parole, c'était une pensée. Et la pensée doit être créée. Très bien. Les pensées de Dieu devinrent création lorsqu'elles ont été exprimées par une parole. C'est ainsi qu'il vous présente comme une pensée, sa pensée, et cela vous est révélé. Alors c'est toujours une pensée jusqu'à ce que vous la parliez. C'est la raison pour laquelle Moïse est sorti pour prier. Il y avait cette colonne de feu autour de lui. Alors il lui a dit, « Dirige ton bâton vers l'est et appelle des mouches. » Il n'y avait pas de mouches. Mais il a levé son bâton, il a dit qu'il y a des mouches. Il n'y avait encore aucune mouche. Il s'est retourné. Mais la parole, la pensée de Dieu avait été exprimée. C'était la parole. Il fallait donc que cela arrive. Maintenant, savez-vous pas ce que Jésus a dit? Si vous dites à cette montagne, non pas si je dis, mais si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et je suppose qu'au temps de Moïse, de grosses mouches vertes commencèrent à bourdonner, et puis après, il y en a peut-être des kilomètres carrés. D'où sont-elles venues? C'est Dieu qui les a créées. Ne voyez-vous pas? Si Dieu voulait, il pourrait détruire ce monde cette nuit avec des moustiques. Il pourrait empiler des moustiques jusqu'à la lune. La seule chose qu'il ferait, c'est simplement dire qu'il y ait des moustiques jusqu'à la lune. C'est tout ce qu'il faudrait. Aucun produit chimique ou quoi que ce soit ne pourrait les détruire. Il continuerait simplement à proliférer à l'infini. Il peut faire ce qu'il veut. Il est Dieu, le Créateur. La seule chose qu'il a à faire, c'est le parler. Ah oui, il est le Créateur. Si seulement nous pouvions en arriver à réaliser combien il est grand. Il fait simplement ce qu'il désire. Il est assis là-haut, il regarde le monde. Et ces pauvres petits éducateurs font les malins en disant qu'il n'y a pas de Dieu et tout le reste. C'est comme si nous étions revenus au temps de la tour de Babel. Nous remarquons que Dieu a dit à Ève, après un certain temps, la parole reviendra à toi. Comment Ève est-elle tombée? Je désire que ma classe discerne bien cela. D'où est-elle tombée? D'où Ève est-elle tombée? De la parole, n'est-ce pas juste? La parole. Et Dieu a dit qu'il ferait un chemin pour la racheter, la ramener à la parole à nouveau. Très bien. Après un certain temps, la parole lui serait connue. Très bien. La parole reviendrait dans un but maintenant. Maintenant, tenez fermement à ce que je dis. La parole reviendrait en elle dans un but, et ce serait pour la rédemption. Très bien. Mais en attendant, jusqu'alors, elle a eu un substitut qui allait agir jusqu'au temps du retour de la parole originelle. Vous comprenez clairement, voyez? Il lui a dit que la parole reviendrait à elle, mais en attendant ce temps-là, il lui donnerait un substitut jusqu'à ce que ce temps arrive. Ainsi, elle devait faire des offrandes, un substitut pour ce sang. Or, le sang était celui des taureaux, des moutons, des boucs, mais il n'ôtait pas son péché. Oui. Il ne faisait que couvrir son péché. Il ne l'ôtait pas du tout, il le couvrait simplement. Car c'était le sang d'un animal. Et dans le sang d'un animal, il y a la vie animale. C'était un substitut jusqu'à ce que le vrai sang, faites bien attention, le vrai sang humain, puisqu'il s'agit d'être humain, soit incarné. Dieu! Sans passer par le sexe, mais par le moyen d'une vierge, la naissance virginale a produit cela. La parole de Dieu, promise, est devenue le sang et fut incarnée dans la personne de Jésus-Christ, le Sauveur. Le sang des taureaux et des boucs, etc. Mais attendez maintenant, Dieu a fait la promesse, disant que le sang serait là, quand la parole reviendrait, la semence de la femme écraserait la tête du serpent. Or, si sa semence était venue comme elle est venue d'Adam ou du serpent, ce serait encore une semence pécheresse. Voilà pourquoi Jean pleurait. Il n'y avait personne parce que tous les hommes étaient passés de l'autre côté du fossé, de l'abîme. Mais un temps viendrait où ce substitut provenant du sang d'un animal serait remplacé par la venue du véritable sang incarné. Dieu, lui-même, fait chair et sang. C'est la Bible qui le dit. 1 Timothée 3,16 « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, car Dieu a été manifesté dans la chair. » C'est vrai. La naissance virginale l'a fait. Maintenant, le sang des moutons et des boucs couvrait le péché, mais ne nous en débarrassait pas, car c'était le sang d'un animal. Et cela convenait très bien à ce substitut. Ils continuèrent donc ainsi jusqu'à ce que la véritable parole promise fut manifestée en Jésus-Christ, qui a prouvé être le Fils du grand Créateur Dieu et s'est confirmé lui-même en étant la parole vivante de Dieu. Il a prouvé qu'il était. Il pouvait appeler des choses à l'existence. Aucun être humain, ni quoi que ce soit au monde, n'est capable de faire cela, créer. Le diable ne peut pas créer. Il est un pervertisseur de ce qui a été créé. Mais il ne peut pas créer. Le péché n'est rien d'autre que la justice pervertie. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'un mensonge? C'est la vérité qui est mal représentée. Qu'est-ce qu'un adultère? C'est l'acte juste et légal, perverti. Tout dans le péché est simplement la vérité pervertie. Satan ne pouvait pas créer, mais lorsque Christ est venu, il a prouvé qu'il était le Créateur. Il y avait en lui le sang qui avait été promis. Si vous voulez lire cela, nous allons prendre notre temps. Ça me rend nerveux quand je pense que vous voudriez bien rentrer à la maison. Maintenant, prenons acte 2. Merci. Acte 2, et nous allons découvrir si c'est vrai ou pas. S'il a prouvé qu'il était Dieu. Acte 2, prenons ici au verset 22. Pierre parle le jour de la Pentecôte. Vous, homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, prodiges et signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Un homme qui fut approuvé comme étant Dieu parmi vous. Les choses mêmes qu'il fit prouvèrent qu'il était Dieu. Voici Pierre se tenant devant le Sanhédrin leur disant ces choses. Nicodème aussi savait cela. Il a dit, « Rabbi, nous savons tous que tu es un docteur venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces choses s'il ne venait de Dieu. » Ils le savaient. Mais alors? Maintenant, cela fut promis à Ève. Cependant, lorsque cette épouse est arrivée à ce temps-là, lorsque la véritable parole est venue vers elle, la femme a refusé de reconnaître l'épouse hébraïque, ce qu'elle était, l'épouse de Dieu. Il l'a répudiée, il l'a divorcée, est-ce juste? Elle était l'épouse de Dieu, mais direz-vous, il n'était même pas encore marié, c'est vrai, mais Joseph était sur le point de répudier Marie avant qu'il fût marié. Il était fiancé avec elle. Et lorsque il est venu et que la parole qu'il avait promise est venue pour les noces, il l'a trouvée enveloppée dans son substitut qu'elle ne voulut pas prendre la vraie promesse qui lui avait été faite, la parole, Christ. Peut-être que vous ne le saisissez pas. Revoyons encore une fois ces choses. Je veux que vous le saisissiez bien. Elle a reçu la promesse, l'épouse, Ève, d'être un rédempteur. Et ce rédempteur serait la parole. Et lorsque la parole est venue et a été faite chair, elle l'a rejetée. Elle a reçu un substitut pour aller de l'avant, jusqu'à ce que le Rédempteur vint, et quand le Rédempteur est venu, elle voulait continuer avec son substitut et elle a rejeté la véritable parole. Voyez? Et ça, c'était l'épouse israélite. Et il fit de même avec la deuxième Ève, l'épouse, la mère de toute vie spirituelle. Voyez? Ève veut dire mère de tout ce qui est esprit, de ce qui est vivant, la mère de tout ce qui est vivant. Et lorsqu'il est venu vers l'épouse israélite, elle était la mère de tout ce qui était vivant. Mais elle a rejeté cela. L'Ève naturelle est tombée en Éden pour avoir écouté le raisonnement de Satan plutôt que la parole de Dieu. C'est ainsi qu'elle est tombée. Très bien. Elle est tombée parce qu'elle a fait cela. L'Ève spirituelle, maintenant c'est l'Église, l'épouse de Christ. Elle est tombée, pas en Éden, mais à Rome. Au concile de Nicée, lorsqu'elle a rejeté cette église de Pentecôte, qui dura jusqu'à Nicée, et qu'elle écouta le raisonnement de Rome, au lieu de se tenir sur la parole, elle est tombée, et tout ce qui était avec elle mourut avec elle, tout autour d'elle. De même que l'Ève naturelle est tombée, l'Ève spirituelle est tombée. L'épouse de Dieu est tombée dans le jardin, l'épouse de Christ est tombée à Rome. Voyez? Remarquez que c'est par les mêmes raisonnements contre la parole de Dieu qu'elle a aussi abandonné ses droits de vertu à Satan. Et c'est ce que nous avons découvert en brisant ses sceaux. C'était Satan, et c'est toujours Satan qui est là. La Bible dit que c'est le siège même de Satan. De même qu'Ève a perdu ses droits de sa vertu, les donnant à Satan dans le jardin d'Éden, l'Église, l'épouse de Christ, fit de même à Rome, lorsqu'elle perdit la Bible, prenant à sa place leur dogme et leur raisonnement. Voyez-vous ce type? Si vous repassez ce type dans votre pensée, vous ne pouvez pas manquer d'arriver juste au but. Si je ne m'étais jamais vu et que je vois mon ombre se déplacer, je saurais déjà un peu à quoi je ressemble. Si vous voulez voir ce qui sera, regardez ce qui a été. Car la Bible dit que toutes les choses anciennes sont des ombres des choses à venir, dit la Bible. Très bien. Elle a abandonné sa parole vertueuse, la parole de Dieu, lorsqu'elle a vendu la Bible qu'elle a mis là à un homme qui disait que l'Église a le droit de changer tout ce qu'ils veulent. Et ils l'ont fait. Et l'épouse de Christ, l'épouse de Pentecôte, a vendu sa vertu à Nicée, exactement comme Ève a vendu sa vertu à Satan dans le jardin d'Éden. Exactement. Dieu a promis à cette église de Pentecôte, en sachant qu'elle le ferait, comme il a fait avec Ève, Dieu a promis L'église pentecôtiste. Croyez-vous qu'elle a vendu son droit d'aînesse, sa vertu, qu'elle l'a cédé là? Certainement, elle l'a fait. Alors que vaut un credo s'il n'est pas basé sur cette Bible? J'aimerais que quelqu'un trouve pour moi dans la Bible ce qu'on appelle le credo des apôtres. Même un seul mot. C'est un credo catholique, non pas celui des apôtres. Lisez Actes 2, 38. Voilà le credo des apôtres. Et c'est ce qu'ils ont toujours utilisé de toute manière. Ainsi, ils ont vendu leur droit d'aînesse. Non seulement cela, mais aussi les méthodistes, baptistes, presbytériens, pentecôtistes et tous les autres. Ils ont fait la même chose. Elle a formé une dénomination. C'est Rome qui lui a fait faire cela. Elle a formé une dénomination et a mis un homme à sa tête. Et les méthodistes, baptistes, pentecôtistes et tous les autres ont fait la même chose. Ils ont mis un groupe d'hommes à leur tête. Peu importe ce que Dieu dit, vous devez faire comme ils disent. Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien de plus que de la prostitution spirituelle. Mauvais type de femme, certainement. Ce sont des credos mensongers, faits de main d'homme. Alors, quand elle a fait cela, je l'ai prouvé, elle est devenue une prostituée aux yeux de Dieu. Croyez-vous que la Bible dit cela? Oui. Et ses filles ont fait la même chose. Maintenant, dans Apocalypse 17, si vous voulez le noter, Jean fut ravi en esprit et vit une grande prostituée assise sur cette colline, nous l'avons vu hier soir, et nous avons vu exactement ce qu'elle a fait, donnant au monde sa sale fornication, n'est-ce pas juste? Et tous les rois de la terre ont commis la fornication avec elle, trichant, volant, mentant, achetant leur repentance, faisant des neuvaines et tout le reste. Rappelons-nous aussi qu'elle avait des filles. Alors si elle devient un corps, un système organisé, alors le système tout entier est faux. Et si Ève, désobéissant à Dieu, a précipité tout dans la mort, ce qui va après elle, et de même chaque église qui s'organise, entraîne dans la mort tout ce qui dépend d'elle. C'est exact. Tout le système va à la perdition. C'est exactement selon la parole. Lisez d'Apocalypse chapitre 17. La Bible dit qu'il la consumerait par le feu et tous ses enfants avec elle. C'est juste. Ça signifie que tout système d'organisation sera consumé avec la prostituée. Maintenant, ça a l'air bien plat. Je sais que vous en entendrez parler. Je désire moi-même en entendre parler. Et c'est absolument vrai. La Bible l'a dit. Ainsi donc, c'est juste. Elle est devenue une prostituée. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse chapitre 17. Qu'a-t-elle fait? Elle a commis la fornication contre son propre mari. Eh bien, direz-vous, c'est la Bible qui le dit. La parole est Dieu. Et si vous ôtez une seule chose, aimeriez-vous que votre femme embrasse un autre homme? Et si même elle ne faisait que cela, vous ne voudriez pas qu'elle le fît, car cela prouverait son infidélité. Quiconque retranchera une parole ou en ajoutera une. Alléluia! C'est la vérité. Cela doit être. Dieu veut que son épouse soit pure dans sa parole. C'est ainsi qu'elle doit être, car il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. N'y placez pas d'interprétation personnelle. Il veut quelque chose de pur, sans aucune altération, sans le moindre flirt. Je ne voudrais pas que ma femme flirte avec un autre homme. Lorsque vous prêtez l'oreille à un raisonnement, quel qu'il soit, allant au-delà de la parole, alors vous écoutez Satan et vous flirtez avec lui. Amen. Tout cela ne vous remplit-il pas d'adoration? Dieu veut que vous restiez non frelatés. Restez simplement avec cette parole. Demeurez avec elle. Très bien. Dieu lui a promis, comme il a fait à Ève dans le jardin d'Éden, cette dernière Ève ici, qui est l'église de Pentecôte, c'est l'église du commencement, l'église elle-même est la mère de tous les vivants. Aussi longtemps qu'ils entrent là, mais vous voyez, lorsqu'ils prennent ses péchés, ils meurent avec elle. Quelqu'un est venu disant, « Je désire servir Dieu. » Ils répondent, « Eh bien, voici ce qu'il faut faire. Entre ici, repends-toi. Très bien, je vais le faire. Gloire à Dieu, il vient et se repent. Maintenant, viens et joins-toi à nous. » Vous y voilà. C'est comme ça qu'il se fait attraper, c'est là, et il meurt avec eux. C'est ce que ce livre enseigne. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est elle qui le dit. Ainsi donc, Dieu lui a promis, comme il a fait avec Ève, il a dit à Ève qu'un temps viendrait où la parole retournerait à elle à nouveau. Maintenant, vous vous souvenez de cela? Ce qu'elle avait perdu serait restitué, parce que la seule chose qui puisse restituer, c'est la parole. Exactement. Comme je l'ai déjà dit, tirez un coup de fusil, si vous manquez la cible, cherchez où vous avez dévié. Vous devez revenir en arrière et repartir de là. Et si vous revenez en arrière, vous remontez à Nicée. C'est de là. Vous repartez. Éloignez-vous de ces organisations, de toutes ces églises. Nous l'avons vu parfaitement dans les sceaux. Toute ma vie, je me suis toujours demandé pourquoi j'étais tellement opposé au système organisé. Pas les gens. Non. Les gens sont exactement comme vous et moi, n'importe qui. Non. Mais ce sont ces systèmes. Ces systèmes dénominationnels. Maintenant, je le vois ici même. Je ne l'ai jamais su avant. Maintenant, c'est juste. Dieu a promis à l'Ève spirituelle, comme il a fait à l'Ève naturelle, c'est que la parole serait rétablie et dans les derniers jours, il restaurerait à l'Église, la ramenant à la parole originelle à nouveau. Maintenant, observez attentivement. Je veux que vous soyez sûrs maintenant. Dieu a promis à Ève que le temps viendrait où la parole serait restaurée par sa semence. Cette parole elle-même deviendrait semence. Mais lorsqu'il lui fut donné un substitut, elle s'en est tenue à ce substitut. Et lorsque la parole vint à elle, que fit-elle? Je n'en veux pas. La parole était trop humble. Elle ne lui convenait pas. Elle n'était pas assez raffinée. Une étable? Oh là là. Un individu comme ça, qui n'a jamais été à l'école? Je ne peux pas accepter cela. Ce n'est pas un Messie. Un individu qui se laisse bousculer, appeler ça le Messie. Un individu qui se laisse bander les yeux et frapper la tête, et il se donne pour prophète, un véritable prophète. Ils n'ont pas connu les prophètes, c'est Jésus qui l'a dit. Si vous aviez connu les prophètes, vous m'auriez connu. Maintenant, remarquez. Mais lorsque la parole est venue à elle, ce fut exactement de la manière annoncée par Dieu. Elle se l'était imaginée autrement. Je parle maintenant de l'épouse juive, de l'épouse israélite. Pour commencer, ce fut Ève. Puis lorsque la parole est venue, elle n'en voulait pas. Elle voulait rester avec son substitut. Maintenant, Dieu a promis à l'Ève spirituelle, à la Pentecôte, et lui a dit avant que ça n'arrive, 400 ans avant la chute de l'Église, qu'elle tomberait et ferait exactement ce qu'ils ont fait. Mais il a promis que dans les derniers jours, il enverrait de nouveau la parole. Jésus dit la même chose lorsqu'il était sur la terre. Il enverrait de nouveau la parole. Et que trouverait-elle? Elle trouverait la même chose que lors de sa première venue. C'est exact. Ils veulent leur substitut, ils veulent leur dénomination, ils veulent leur credo, ils veulent vivre à leur manière, et ils veulent, eh bien je suis tel et tel, j'appartiens à ceci, cela. Peu importe la manière dont Dieu agit et se manifeste, il peut bien ressusciter les morts, révéler les secrets du cœur, faire tout ce que la Bible dit qu'il ferait. Tout cela ne fait aucune différence pour eux. Si cela n'est pas en relation avec mon organisation, alors ça ne vaut rien. C'est la même chose avec l'épouse israélite. C'est vrai. Ils ont écouté leur substitut alors que Dieu leur avait promis la chose réelle. Et lorsque la chose réelle est venue, ils n'en voulaient pas. C'était trop humble. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand cela entre en scène, Dieu a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait un message de les derniers jours qui restituerait, restaurerait. Joël a dit, je restaurerai toutes les années tout ce que Rome a dévoré, tous les méthodistes, baptistes ont dévoré de cette branche originelle de la Pentecôte. Dieu a dit, je restaurerai dans les derniers jours. C'est exact. Et il peut envoyer une telle personne. Et ce sera la seule chose que Dieu, à qui il a envoyé sa parole, c'était au prophète. Pas au réformateur, mais au prophète. Mais l'heure n'avait pas encore sonné pour cela. Maintenant, elle est sur le point de sonner. C'est pourquoi nous attendons la venue. Ce sera quelqu'un de si humble et doux. Oh là là, mes frères, croyez-vous que ces aristocratiques méthodistes, baptistes, presbytériens et pentecôtistes ne recevront jamais? Même les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont les laodicéens. Ils sont riches, ils n'ont besoin de rien. Il est écrit, vous ne savez pas que vous êtes pauvres. Vous pouvez construire des immeubles valant des millions de dollars, mais ça n'empêche pas que vous êtes pauvres, spirituellement pauvres. Oh, vous dites, oh, je vois tout parfaitement. Vous êtes aveugles. Vous dites, eh bien, Dieu soit béni, je suis vêtu. Vous êtes nus. Vous dites, eh bien, pourtant nous formons nos jeunes dans des séminaires et vous ne le savez pas. Donc c'est juste vice-versa. La Bible dit que l'église de Laodicée serait dans cet état et personne sur terre ne pourrait nier que cet âge est le dernier parce que l'âge de l'église de Laodicée est le septième âge de l'église et nous y sommes. C'est la fin du deuxième millénaire. Il n'y a plus d'âge de l'Église. C'est la raison pour laquelle vous, les frères de la pluie de l'arrière-saison, ne pourrez commencer notre organisation. Il n'y en aura plus. C'est fini, nous sommes à la fin. Amen. Il ne peut plus y avoir d'autre âge de l'Église. Tout est terminé. Ainsi donc, le message de la Pentecôte fut le dernier message. Il apporta la justification, sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les trois derniers messages. Les trois derniers âges forment la naissance complète. C'est lorsque une femme va avoir un bébé. En réalité, la première chose qui arrive, c'est l'eau. Ensuite, c'est le sang et puis la vie. Lorsque Jésus fut mis à mort sur la croix, la substance sortait de son corps pour former la naissance. Son côté fut percé, du sang et de l'eau sont sortis. Et il s'est écrié, « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Ce qui est sorti de son corps, c'était l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, 7 en parle. Au ciel, il y en a trois qui rendent témoignage. Le Père, la parole, qui est Christ et le Saint-Esprit. Et ces trois s'accordent en un. Je veux dire qu'ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord en un. Et les trois qui rendent témoignage sur la terre, peut-être l'eau, le sang et l'esprit, ils sont d'accord pour un même témoignage. 1 Jean 5, 7. Vous pouvez être sanctifié sans être justifié, vous pouvez être justifié sans être sanctifié, et vous pouvez être sanctifié sans recevoir le Saint-Esprit. C'est exact. Les disciples dans Jean 17, 18 furent sanctifiés et reçurent le pouvoir de chasser les démons, mais ils n'avaient pourtant pas encore le Saint-Esprit. Ils durent aller jusqu'à la Pentecôte et attendre la venue du Saint-Esprit. C'est là que Judas a montré ses couleurs. Voyez comment cet esprit fait son chemin à travers la justification, la sanctification, mais lorsqu'il arrive à la fin, il montre ses couleurs. C'est vrai. Maintenant, remarquez, maintenant, nous y sommes à la fin, au temps de la fin. Et l'Ève spirituelle, tout comme l'Ève israélite, a reçu la promesse, l'épouse israélite a reçu la promesse que la parole reviendrait, et de même, l'épouse spirituelle de la Pentecôte, lorsqu'elle est tombée à Nicée, il lui fut promis que dans les derniers jours, que la parole reviendrait. Maintenant, si vous voulez un autre passage des Écritures, prenez ici Apocalypse 10. Il a dit, à l'heure, au temps, le dernier ange, le septième ange, le septième messager, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera terminé. Vous voyez? C'est la restitution, le retour à la parole. La Bible dit que ce messager des derniers jours les ramènerait à la foi originelle, la foi des pères. Mais croyez-vous qu'ils recevront cela? Non, monsieur. Il est dit dans les derniers jours qu'ils restaureraient la parole originelle, Malachi 4, elle l'avait abandonnée. Maintenant, elle a abandonné cette parole à Nicée. Ève l'a abandonnée en Éden. Elle a rejeté la sienne au calvaire. Et le groupe de Nicée la rejette pareillement dans les derniers jours. C'est la même chose. Oh là là. Mais lorsque la parole est venue dans une chair humaine, elle, Ève, l'Église israélite, la mère de tous ceux qui ont reçu la vie spirituelle, elle l'a rejetée. Elle était tellement morte dans ses traditions et dans ses dogmes qu'elle l'a manquée. De même celle-ci, exactement. Il le manque, lui, la parole vivante, manifestée dans la chair, par la parole qui est promise. La parole a promis de faire ces choses. La promesse fut faite, et il en sera de même dans les derniers jours. Comme il en fut au jour de Sodome, de même en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Considérez ce qui s'est passé à Sodome. Comme il en fut au jour de Noé, de même en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Considérez ce qui est arrivé alors, voyez. Il a dit que ce serait la même chose, et nous vivons à ce jour-là. Concernant la promesse, je crois que je pourrais facilement trouver 600 passages qui se réfèrent à ce sujet de l'Écriture, mais ils la rejetèrent. Elle s'en tint à cette tradition au substitut. Elle s'est tenue au sang de substitution au lieu de prendre le réel. Jésus, la parole, lorsqu'il fut manifesté, c'est parce qu'elle s'est tenue à cette tradition. Jésus, la parole manifestée, a dit à l'épouse israélite, parce que vous vous en tenez à vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour vous. Elle ne peut pas avoir d'effet. Voilà pourquoi aujourd'hui, les réveils que nous sommes censés avoir, nous avons des réveils dénominationnels. Nous n'avons pas eu de mouvement réel. Non, non, non. Non, monsieur. N'allez pas croire que nous avons eu des réveils, ce n'est pas vrai. Oh, les églises ont des millions, des millions de membres d'église, mais aucun réveil nulle part. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il n'y a pas encore eu de réveil, aucune manifestation de Dieu pour mettre l'épouse en mouvement. Nous nous y attendons. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller. Il l'enverra, il l'a promis. Maintenant, veillez. Elle était morte. Si les églises voulaient bien oublier leur credo et oublier leur dogme et simplement prendre la Bible en intercédant pour recevoir la promesse, alors celle-ci deviendrait effective pour eux. Mais vous voyez, Jésus a dit, vous, avec vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet pour vous. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui avec l'œuvre spirituelle. L'épouse spirituelle aujourd'hui, la soi-disant Église, elle prend la parole de Dieu et elle ne veut pas l'accepter. À sa place, elle accepte des dogmes. C'est pourquoi la parole est sans effet pour elle. Parce qu'elle essaie d'injecter ses credos dans la parole. Et ça ne marche pas. Maintenant, ce qu'il nous faut aujourd'hui, j'ai l'habitude de lire ici le héros de sa venue. Il y avait toujours de grands titres. Nous avons besoin d'un prophète. Nous avons besoin qu'un prophète revienne. Et je pense que lorsqu'il viendra, ils n'en sauront rien. C'est vrai. Ça a toujours été ainsi. Nous avons besoin d'un prophète qu'il revienne pour nous apporter la parole du Seigneur. Nous croyons que la Bible l'a promis. Je connais frère Moore, le rédacteur et les autres. J'ai mangé chez lui, c'est l'un des hommes les meilleurs que je connais sur la terre, vous voyez. Et il sait que nous devons avoir cela. Et sœur Moore est une très brave femme. C'est l'une des... Et que de sacrifices ils ont fait tous les deux. Le héros de sa venue est à ma connaissance l'un des meilleurs journaux missionnaires. Mais vous voyez qu'il continue à proclamer, nous avons besoin d'un prophète. Nous avons besoin d'un prophète. Oh là là. Et voilà ce dont ils parlent. Et voilà, nous en sommes aujourd'hui, hier et aujourd'hui, et on a annoncé à la radio que dans les églises baptistes et autres, on recommandait de ne pas faire ménage commun avec les catholiques, mais pourtant d'avoir une communion avec eux. Et ici même, le message a été proclamé nous disant de nous tenir à l'écart de ce poison. Comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Il ne peut y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Lorsque la lumière vient, l'obscurité s'en va. C'est la lumière qui est la plus puissante. Vous ne pouvez enlever la lumière avec de l'obscurité, mais vous pouvez chasser l'obscurité avec la lumière. Et il est la lumière, il est la parole. Voilà, et nous revenons directement au point de départ. Vous ne pouvez pas la faire mentir et lui faire faire quelque chose de faux. Nous revenons toujours à ce point-là. C'est pareil lorsque quelqu'un commence à faire des histoires. Si vous savez où vous en êtes et vous connaissez quoi que ce soit, c'est comme si vous lâchiez un lapin dans un enclos après en avoir fermé toutes les issues. Tenez-vous à la porte, il doit y revenir. Il doit revenir, car c'est le seul passage pour en sortir. Il sortira sa tête ici, et là, à s'en rompre le cou, il cherchera partout. Restez là et observez-le. Voilà tout. Restez avec cette parole. Vous pouvez proclamer tous vos credos en perdant la voix et vous rompre le cou à chercher partout. Il faut que vous reveniez exactement à cette parole. Voyez. Mais ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ève s'est tenue à ses traditions. Et la parole de Dieu est sans effet pour elle, et c'est la même chose aujourd'hui avec les spirituels. Elle ne veut pas, elle préfère garder ses traditions et s'éloigner de la parole de Dieu. Elle tient aux dénominations et aux credos, aux traditions des anciens, plutôt que prendre la parole de Dieu. Et lorsque, dans les derniers jours, la promesse de la parole lui est apportée, elle ne la recevra pas parce qu'elle a ses traditions comme l'épouse israélite, bien que la parole réelle ait été manifestée, prouvée, confirmée. Elle n'en veut pas. Pourquoi n'en veut-elle pas? Parce que c'est son type. Elle ne peut pas le faire. C'est juste. Elle ne peut pas battre le type. Il est prédit qu'elle agirait ainsi. Ainsi, comment allez-vous faire pour vous tenir éloigné de tout cela? La seule chose à faire, c'est de se réjouir d'être dedans. Très bien. Dieu a promis dans les derniers jours qu'il se manifesterait et qu'il confirmerait sa parole à elle. Et pourtant, elle ne voudrait pas le recevoir. Tout cela, Dieu lui a promis par ses serviteurs les prophètes. Dieu a promis par Jésus-Christ. Dieu a promis par Joël. Dieu a promis par Paul. Dieu a promis par Malachi. Dieu a promis par Jean le Révélateur. Tous étaient des prophètes. Juste exactement ce que serait le dernier message. Maintenant, si vous voulez écrire, vous les connaissez tous. Jésus, Jean 14, 12. Joël, Joël 2, 25. Paul, 2 Timothée 3. Malachi, 4e chapitre. Et Jean le Révélateur, Apocalypse 10, 7. 27. Exactement ce qui arriverait maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée, faite chair, venant de nouveau parmi son peuple. Et ils ne le croient tout simplement pas. Savez-vous ce que Jésus a dit lorsqu'il a fait ses miracles devant eux et prouvé qu'il était Dieu? Il a prouvé ce qu'il était en train de faire. Il l'avait fait exactement comme il devait le faire. Il leur a dit, « Toi, Capharnaüm, qui es élevé jusqu'au ciel, si les œuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est vrai. À Capharnaüm, il ne fit rien d'autre que guérir quelques personnes et révéler les secrets des cœurs, et puis il est parti, c'est tout. Vous voyez, ils ne savent pas ce que sont les œuvres puissantes. Ils pensent qu'il doit y avoir un programme grandiose où tout le monde se lève, le jugement fait un discours, l'orchestre joue, les drapeaux flottent au vent, des femmes bien habillées entrent majestueusement avec tous les grands savants et théologiens en chapeaux, haut de forme et col retourné, etc. Ils viennent tous, c'est quelque chose de grandiose. Mais Dieu dit, c'est de la folie tout cela. Il suscite un homme sans importance, qui sait tout juste lire et écrire. Et cet homme connaît à peine son ABC, et il accomplit quelque chose qui enflamme toute la vraie Église. Et les autres disent, ce n'est qu'une bande exaltée. Dieu appelle cela grand, mais le monde l'appelle folie. Mais ce que le monde appelle grand, Dieu l'appelle folie. C'est juste vice-versa. Et les choses que Dieu a promises, Dieu les fera et il les a faites. Nous y voilà. Maintenant, elle demeure comme elle était, l'Ève israélite. Elle ne voulait pas le faire. Vous pouviez ressusciter les morts. Vous pouviez voir l'Esprit de Dieu. Jésus est venu et s'est confirmé comme étant le Fils de Dieu. Premièrement, elle a commencé à prêcher. Et les gens pensaient, tiens, quel drôle d'individu. De toute façon, qui est-il? Évidemment, les gens dirent ce qu'ils avaient déjà dit lors de la venue de son précurseur Jean. Est-ce que tu es le Messie? Jean leur a dit non, mais il se tient parmi vous quelque part. Voyez, pourquoi? C'est parce qu'il savait ce qu'il aurait à faire quand son message serait donné. Il savait ce qu'il ferait. Il savait ce qu'il allait faire. C'est comme Noé lorsqu'il observait Enoch. Lorsqu'Enoch est parti, Noé a dit, nous ferions bien de nous approcher de l'arche. Le temps est proche. Noé continue d'observer Enoch. Et Jean observer, pour voir le signe que Jésus, que Dieu lui avait dit d'observer. Il a dit, il se tient ici maintenant, quelque part au milieu de vous. Je ne le connais pas, mais je le connaîtrai. Lorsqu'il s'est tenu là, il a dit, n'es-tu pas le Messie? Nous avons été envoyés à notre quartier général. Les anciens et les autres nous ont envoyés ici. Si tu es le Messie, pourquoi ne viens-tu pas chez nous pour te faire reconnaître plutôt que de rester ici parmi cette bande de gens de rien du tout? Viens avec nous et fais-toi connaître. Il a dit, je ne suis pas le Messie. Il dit encore, je suis la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Et ça passait complètement au-dessus de leur tête. Ils ne connaissaient rien du tout. Et pourtant, ils attendaient tous la venue du Messie. Mais ce ne pouvait pas être un individu comme cela. Oh là là, ça aurait été terrible. De quelle école viens-tu? D'aucune. As-tu ta carte de membre? Qu'est-ce que c'était? Il était oint par Dieu. Il a dit, voici ce que j'ai à dire. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Maintenant, c'est tout ce qu'il avait. Il parlait le langage d'un bûcheron et non pas celui d'un théologien. Vipères, des haches, des arbres. Il n'utilisait pas des termes ecclésiastiques, mais Jésus a dit qu'il n'y eut jamais de prophète semblable à lui et qu'il n'y eut jamais d'homme né de femme qui fût semblable à lui jusqu'à ce jour. C'est vrai, il était plus qu'un prophète. Il était le messager de l'Alliance, se tenant exactement entre les deux dispensations. Vous voyez? Plus qu'un prophète. Et il se tenait là, mais ils ne le reconnurent pas, ils ne le comprirent pas. C'était un individu d'un genre bizarre. C'est pourquoi ils le manquèrent simplement. Lorsque Jésus viendrait, il n'accepterait certainement pas ce fils de charpentier. Il n'avait rien de pareil. Il avait d'ailleurs une mauvaise réputation d'un enfant illégitime. Il n'irait pas voir un tel individu. Mais voyez ce que Dieu a fait. Il a pris des pauvres pêcheurs sans instruction, des bûcherons, des fermiers et des prostituées. Et il laissa les dignitaires assis à leur place. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi fit-il une telle chose? Pouvez-vous imaginer? Parce que ces gens-là le reconnurent comme étant la parole. Considérons-le une minute. Voici un vieux pêcheur ignorant. Il ne sait même pas écrire son nom. La Bible dit qu'il était ignorant et sans instruction. Il apporte ses poissons et les dépose à terre. Et il va voir quel est l'objet, tout ce bruit. Mais au fond de lui, il savait que la Bible disait que le Messie, tous les Hébreux s'attendaient à la venue du Messie. Parce que quelque chose de scripturaire devait se passer quand il viendrait. De nombreux messies étaient venus disant, « C'est moi !» Et ils entraînèrent à leur suite des centaines de gens qui périrent avec eux. Mais voyez-vous, tout cela arriva, afin que le Messie véritable fût rejeté lorsqu'il viendrait. Nous avons eu les manteaux et les vêtements d'Élie et tout le reste, mais cela ne fait que rejeter la chose réelle quand elle vient. C'est vrai. Toutes sortes de gens qui ont porté ces robes et ces vêtements ont été ensevelis, revêtus de ces défroques. Cela ne fait que nous donner une confirmation. C'est comme un faux dollar. Il nous montre qu'il doit y en avoir un vrai quelque part, si vous arrivez à le découvrir. Voici donc venir ce Messie. Alors ces dignitaires sortirent et ils se reposaient tellement sur leur substitut qu'ils dirent, « Eh bien, si le Messie vient, il viendra certainement chez Caïphe. Il viendra dans notre dénomination, il viendra chez les pharisiens. » Les Sadducéens disaient, « C'est ce que vous pensez, mais il viendra chez les Sadducéens. » Et c'est la même chose aujourd'hui. Mais lorsqu'il est venu, cela s'est passé de manière étrange. Il est venu d'une manière toute différente à ce qu'ils pensaient. Il est venu conformément à la parole. Et ils ne connaissaient pas la parole. Laissez-moi vous le dire d'une manière si réelle qu'elle pénètre profondément. Je voudrais que vous nous comprenions bien cela. Voilà ce qui ne va pas avec vous aujourd'hui. Vous ne connaissez pas la parole. Jésus a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Il disait, nous avons Moïse. Jésus a dit, si vous aviez connu Moïse, vous m'auriez connu. Ils ne connaissaient pas Moïse. C'est pourquoi ils ne le connurent pas. Ils connaissaient simplement leur credo. Voilà tout. Maintenant, prenons ce brave pêcheur. Il déposa son panier, il tire sa barbe grise, il se dirige là et dit, « Je crois que je vais aller voir qui c'est. » Son frère dit, « Viens, allons là-bas. » C'est le même homme. C'est celui que nous avons vu l'autre jour. Je suis resté toute la nuit près de lui. Tu sais, Jean et moi, nous t'avons parlé. Ah, cette espèce d'homme des bois, oui, j'en ai entendu parler. Ce brave Simon, vous savez, avait dit, « J'ai entendu parler de lui là-bas. J'y étais il y a 2 ou 3 mois. » Et il disait, un jour, il était là. Il a dit une chose bizarre. Le voici qui vient maintenant même. Il rétorquait, comment le sais-tu? Il regarda là-bas et il vit quelqu'un d'apparence tout à fait ordinaire. Je vois l'Esprit de Dieu venir sur lui comme une colombe. J'entends J'entendis une voix disant, « C'est lui, mon fils bien-aimé, en qui je me plais de demeurer. » Alors Jean est entré dans l'eau avec lui et l'a baptisé. Il avait dit qu'il le connaissait. « Oh, je ne sais pas, dit Simon, j'en ai entendu parler tant et tant de fois. » Et au fond de son cœur, il y avait la semence prédestinée. C'est Jésus qui l'a dit, c'est vrai. Ainsi, il est allé devant lui, disant, « Je vais aller voir à la réunion. » Il est allé, Jésus se tenait là. C'est un personnage tout à fait ordinaire. Il est allé vers Jésus, et Jésus lui a dit, « Ton nom est Simon. » Et le nom de ton père est Jonas. Oh, ça lui a donné un choc. Pourquoi? C'était cette petite semence de vie éternelle qui avait été frappée en lui. Oui, monsieur. Un instant, comment est-ce possible? Tu ne m'avais jamais connu. Tu n'as jamais connu mon père, car il y a des années qu'il est mort. Et voilà, tu viens et tu me dis ces choses. Je sais que la Bible dit, maintenant, nous occupons pas des traditions, mais la Bible dit que le Messie serait un prophète. Le voici. C'est lui. Un jour, il passait par la Samarie avec un groupe de Juifs. Pendant que ceux-ci étaient absents, cette femme de mauvaise réputation est venue. Vous savez, c'était peut-être une jolie femme. Elle avait été mise à la rue depuis son enfance et y était restée. Peut-être avait-elle une idée derrière la tête. Elle arriva au puits, plaça sa cruche et commença à tourner la manivelle pour puiser de l'eau. Alors, elle entendit un homme lui dire, « Donne-moi à boire !» Elle regarda autour d'elle et elle vit un Juif d'âge moyen assis là. Et elle dit, « Hé, n'es-tu pas juif? Tu ne devrais pas faire ça. C'est pas la coutume qu'un juif me parle à moi, qui suis une Samaritaine. » Dis, « Si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. » Elle dit, « Où est ta cruche? Où est ta corde? L'eau que je donne, dit-il, c'est la vie. La quoi? » Et il dit, et vous voulez tous adorer à Jérusalem. Nos pères adoraient, c'est juste, dit-il. Nous, Juifs, savons ce que nous adorons. Mais le temps vient où l'homme n'adorera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Il a dit, ils adoreront Dieu en esprit, parce qu'il est esprit. Ils l'adoreront en esprit en vérité. Eh bien, alors elle a commencé à étudier la chose. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Et elle dit, mon mari? Je n'ai pas de mari. C'est vrai? Tu as dit la vérité? Tu as eu cinq maris et tu es maintenant avec le sixième? Il dit encore, tu en as eu cinq? Tu as dit la vérité? Regardez bien, qu'est-ce que c'était? La lumière a frappé cette semence qui se trouvait là, que Dieu avait appelé, avait parlé. La semence était sur la terre. Lorsque Dieu retira les eaux et que le soleil l'a touchée, elle est sortie. Voilà tout ce qu'il fallait, le soleil. Elle avait besoin de lumière, certainement. Et alors, lorsque le Saint-Esprit qui était en lui lui fit ressortir sa vie passée, il lui a montré, cette lumière l'a frappée, elle a dit, « Monsieur, je perçois que tu es un prophète. » Elle a dit, nous savons que lorsque le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. Et nous n'avons pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Nous n'avons pas eu un véritable prophète depuis des centaines d'années. Et elle ajouta, tu me parles de mon mari, tu m'as dit combien j'en avais eu, etc. Je ne comprends pas cela. Mais je sais que lorsque le Messie viendra, eh bien, c'est ainsi que ça se passera. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je le suis. À une prostituée. Et les prêtres regardaient autour d'eux, ils devaient faire rapport à leur assemblée, disant, « Ne perdez pas votre temps avec cet individu, il est possédé d'un démon. » Voilà la différence. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est pareil aujourd'hui. Ça correspond parfaitement. Oui. Si elle sut cela, c'est parce que la lumière l'avait frappée. Les pêcheurs, les hommes des bois, les paysans, collecteurs de taxes, les prostituées, tous ceux-là ont vu en lui ce que les simples Écritures avaient dit qu'il ferait. Mais les pharisiens ne purent rien voir à cause de leur tradition. Ils ne purent rien voir à cause de leur tradition. Mais les prostituées, les paysans et tous les autres le virent. Tous ceux qui étaient prédestinés Quand les doutes se sont écartés, la vraie semence se mit à croître en eux. Que fit la femme? Elle se contenta-t-elle de dire, « Eh bien, je suis contente d'avoir rencontré Nassi. » Non, elle courut immédiatement à la ville. Elle ne pensait plus à son nom. Elle a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas même les choses dont les Écritures ont dit qu'il ferait? Est-ce que ce n'est pas exactement cela? » Et les gens pouvaient voir la même chose que Jésus-Christ avait dit dans Saint Jean 14, 12. Cela arriverait à nouveau. Il a dit aussi dans Luc, comme il en était au temps de Noé, comme Dieu s'est manifesté dans un homme et avait dit qui était derrière lui et ce que faisait Sarah. Elle riait dans la tente et tous les passages de l'Écriture, Malachie 4, et ce que les autres ont prédit dans les derniers jours. Hébreux 4 a dit lorsque la parole reviendra. Malachie 4 a dit qu'elle discernerait. Hébreux 4 a dit que la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. Et ils peuvent voir ces choses s'accomplir, mais ils s'en détournent bien vite pour leur tradition et rendent la parole sans effet. Voilà, nous en sommes, c'est tout. Vous savez, il pourrait faire la même chose aujourd'hui. Il entrera directement en scène et produira la même chose, comme il a dit qu'il le ferait. Il a promis de le faire. Il a promis de le faire. La même chose. Au messager de Laodicée, il est censé le faire. Et alors, si l'église de Laodicée voit cela se faire, exactement comme l'église israélite le fit au commencement. Si bien confirmé que ce soit, elle le fera de toute façon. Il a dit qu'il reviendrait à la parole originelle et qu'elle serait manifestée comme cela a été promis afin de restaurer la foi originelle à nouveau. Et en se faisant connaître qu'il habitait parmi son peuple en faisant ces choses, mais il n'a même pas eu sa photo prise. Et avec sa photo, prouvée scientifiquement, mais il ne croit toujours pas. L'œil mécanique de la caméra a fixé cette chose-là, la colonne de feu qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Et tout cela a montré la science et toute autre chose. Scientifiquement et dans le domaine spirituel, ça a été confirmé, et vous savez qu'ils feront probablement la même chose, et probablement qu'ils s'en éloigneront et feront ce qu'ils ont toujours fait. Oh, que Dieu nous aide. Nous allons simplement nous arrêter ici. Que Dieu nous aide maintenant, c'est ma prière, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. Que Dieu nous aide à voir. Je crois que l'Esprit est sur nous en cet instant et qu'il va nous aider à révéler, à ouvrir ce sceau. Lisons. Alors que nous voyons l'état dans lequel se trouve l'Église, nous voyons ce qu'elle a été, ce qu'elle a fait, ce qui devait arriver. Nous le voyons là. Et nous voyons ce qu'elle était censée faire. Maintenant, vous voyez, nous en sommes. Jugez vous-même. Je ne peux pas juger. Je suis simplement responsable d'apporter cette parole. Comme elle me l'a été donnée, je peux vous la donner jusqu'à ce que... Tant qu'elle ne m'est pas donnée, je ne peux pas vous la donner, ni personne d'autre. Et lorsqu'il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième animal dire, « Viens et vois. » Et je vis, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus, ayant une balance dans la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre animaux disant, une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne nuis pas à l'huile et au vin. Maintenant, l'agneau tient le livre dans la main. Il en brise les sceaux. Il a brisé le premier, le deuxième, et maintenant, il brise le troisième sceau. Et tandis que l'agneau brise le troisième sceau, le troisième être vivant, combien parmi vous savent à quoi il ressemble? Un homme. Le premier ressemblait à un lion. Le second ressemblait à un veau ou à un bœuf. Et le troisième ressemble à un homme. C'est un homme. Et il entendit l'être vivant, semblable à un homme, dire à Jean, « Viens voir ce que c'est. » Ce mystère qui a été caché dans toutes les années de la rédemption depuis la fondation du monde, qui a été caché là, sous le sceau. Ce qui va arriver. Maintenant, viens voir ce que c'est. Ainsi il l'ouvre, un tonnerre éclate, l'agneau ouvre les seaux. Jean s'avance afin de voir ce que c'était. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un cheval noir et son cavalier tenait dans ses mains une balance. Maintenant, c'est la première chose qu'il a vue. Quand l'agneau l'a annoncé, il a brisé le sceau. Ensuite, l'autre être vivant, voyez comment ces êtres vivants annoncent à tour de rôle. Viens et vois. De l'endroit où il se tenait, peut-être comme ceci, Jean s'est avancé par ici. Lorsque l'agneau ouvrit le sceau, il s'est avancé comme d'habitude, le tonnerre retentit, ainsi que nous l'avons vu dans le premier sceau. Il observe ce qui se passe et voit premièrement un homme venant sur un cheval blanc. Il observe et le voit chevaucher d'un bout à l'autre. Jean le voit chevaucher jusqu'à la fin. Il le voit s'avancer sur son cheval blanc, ce cavalier avec un arc à la main, mais il n'a pas de flèche. Et ensuite, vous savez, il reçoit une couronne et il continue. Ensuite, nous découvrons et il revient. L'agneau ouvre un second sceau et il dit, et voici que s'avance maintenant un cheval roux. Et cet homme a une épée dans la main. Il passe d'un bout à l'autre des Écritures, tenant une épée à la main. Et il se met à tuer et à enlever la paix de la terre. Maintenant, l'agneau ouvre un autre sceau. Un autre être vivant, semblable à un homme, dit, viens et vois. Il s'avance afin de voir ce que c'est. Quand il le fait, un cavalier vient sur un cheval noir. Hier soir, nous avons vu que le même cavalier qui montait le cheval roux était le même que celui qui montait le cheval blanc. Et la voix qui était au milieu des êtres vivants cria, viens voir ce que c'est. Cette créature vivante, et il a vu ce cheval noir, et la voix qui était au milieu des quatre êtres vivants cria, une mesure de froment pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne nuit pas à l'huile et au vin. Ce cavalier, parlons-en. Si vous remarquez, vous avez vu qui était le premier cavalier, et nous avons vu hier soir, selon les Écritures, que le second cavalier était exactement le même homme, seulement il montait un autre cheval. Que s'est-il passé? Il avait changé de ministère. Oui, c'est juste. Nous avons découvert que c'était un antichrist et qu'il avait simplement changé de position. Nous avons vu que lorsqu'il montait un cheval blanc, il est devenu une doctrine. Nous allons maintenant prendre chacun de ces cavaliers et le placer dans les Écritures. Considérez, nous en sommes ce soir, dans quel autre âge de l'Église nous sommes maintenant. Nous sommes arrivés maintenant au troisième âge de l'Église. Exactement le troisième âge de l'Église, semblable au troisième cheval. Quel était le premier âge de l'Église? Les Nicolaïtes, qui avaient une doctrine. C'était le premier. Très bien. Alors la première chose que nous voyons, cette doctrine des Nicolaïtes est devenue une sanction, est entrée en action. Et c'est alors qu'ils ont couronné cet individu. Puis cet esprit, l'esprit antichrist, s'incarne dans un homme, voyez. Et nous découvrons plus tard qu'il devient le diable incarné aussi. Le démon sort et le diable entre. Et de la même manière que cette église antichrist progresse, l'épouse avance avec la réforme, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et elle continue à avancer. Seulement eux ont vécu ce réveil au commencement, tandis que l'Église le vit à la fin. Les trois premières étapes conduisent à l'Église à travers les âges sombres, puis au cours des trois étapes suivantes, l'Église passe par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, Dieu incarné à nouveau et manifesté parmi nous. Voici le cavalier venant comme l'antichrist, comme le faux prophète, puis la bête dans l'âge des ténèbres. L'Église sort des âges sombres dans la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, la parole incarnée dans le croyant, tandis que le cavalier descend, il descend et l'Église monte. C'est aussi parfait que possible. Oh, c'est beau. J'aime cela. Ce cavalier est le même, mais dans une autre étape de son ministère. La première étape, c'est le cheval blanc, voyez. Il était simplement un docteur antichrist. Il était contre la parole de Dieu. Comment pouvez-vous être un antichrist? Quiconque refuse d'accepter que chaque parole de cette Bible est la vérité et qui refuse qu'on lui enseigne cela est un antichrist parce qu'il renie la parole et que Dieu est la parole. Maintenant, première étape, le cheval blanc. Ce cavalier n'était qu'un docteur, mais il avait un esprit antichrist dans sa doctrine et dans ses qualités. C'était innocent, il ne semblait pas qu'il pût faire le moindre mal. Voilà comment Satan s'est introduit, c'est un rusé personnage. Il a dit à Eve, je sais que tu recherches la sagesse, tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Si tes yeux étaient ouverts, tu saurais ce qu'il en est. Le fruit est très agréable, il est bon, il est plaisant à l'œil, tu devrais en prendre maintenant. Tu ne sais pas s'il est bon ou non. Non, je ne sais pas, mais Dieu a dit de ne pas le faire. Eh bien, je sais, mais Dieu a dit qu'il le ferait. Sûrement qu'il ne le fera pas. Tout cela dit avec la plus grande douceur. Mais voyez le résultat. Observez comment cet esprit antichrist prit naissance au sein de l'Église primitive. C'était une doctrine des Nicolaïtes. Nico, conquérir les laïcs pour fabriquer de saints hommes. Nous désirons simplement la communion. Vous êtes dispersés par ici, personne ne sait où se trouvent les autres. Je pense que nous devrions tous avoir une organisation et être un peu différents. Nous devrions nous mettre ensemble. Nous devrions faire une loge. Voyez ce que c'est? En fait, il n'existe pas une telle chose qu'une église chrétienne méthodiste. Ce n'est pas une église, c'est une loge. L'église baptiste, ce n'est pas une église, c'est une loge. Il n'y a qu'une seule église. Et c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et vous naissez là-dedans par prédestination. C'est vrai. Tous ceux que le Père me donne viendront. Aucun homme ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'appelle. Et tous ceux qu'il m'a donnés viendront à moi. Voilà, c'est cela. L'agneau est là, faisant intercession jusqu'à ce que le dernier entre. La petite cloche sonne et il sort pour prendre ce qui lui appartient. Il conduit ses sujets, son église, dans sa maison, et il jette son ennemi dans les temps de feu et tous ses sujets iront avec lui, et c'est fini. Ensuite, nous entrons dans le millénium. Le même cavalier maintenant. Sa première étape, il était innocent. Dans la deuxième étape, maintenant, si vous avez fait élever un petit peu, la Bible dit qu'il lui fut donné une couronne et qu'il couronnait un homme, un surhomme. Ils l'ont couronné. Et alors la Bible ne lui a pas donné le nom de pape. La Bible l'a appelé un faux prophète. Pourquoi? Bien sûr, il faut que ce soit un faux prophète. Par son esprit antichrist, il enseigne une doctrine antichrist opposée à la parole originelle. Si vous enseignez des choses opposées à la parole originelle, c'est antichrist, mais la parole est Dieu. Maintenant, après cela, nous découvrons qu'il est couronné. C'était alors un petit personnage très innocent et faible, mais ensuite au concile de Nicée, Constantin lui donna tous les droits. Et que fait-il alors? Satan lui donna son trône et son autorité, c'est ce que la Bible dit, comme nous l'avons vu. La chose suivante que nous découvrons, c'est que le diable contrôle toute la politique passée, présente et à venir. Nous voyons ça dans Matthieu 4, 9. Et nous voyons maintenant que Satan détenait déjà la politique, mais qu'il essaye de s'emparer de l'Église. Il descend pour la séduire, il prend son surhomme, il l'introduit dans une organisation, et le couronne vicaire. Vicaire de Christ, un Christ. Christ agissant à la place de Dieu. Voyez, cet individu est un vicaire mis à la place de Dieu. C'est juste la même chose. Il prend la place de Dieu. Il doit être un vicaire de Christ. Quand il a fait cela, qu'est-ce qu'il a fait alors? Satan a pris la puissance politique qu'il détenait déjà et la puissance religieuse dont il avait déjà été couronné. Il les mit ensemble et il lui donna une autre couronne sur l'enfer. On vous blanchit si vous donnez assez d'argent pour en faire sortir. Ainsi maintenant, il est vicaire sur les cieux, sur le purgatoire, si vous voulez l'appeler ainsi. Ça n'existe pas dans la Bible, mais il fallait bien fabriquer quelque chose. La Bible dit qu'il sortirait de l'abîme de la même manière. Mais sur la terre, il était un souverain. Ensuite, que lui fut-il donné? Premièrement, il avait un arc, mais pas de flèche. Maintenant, il tient une épée puissante dans la main. Il peut faire quelque chose maintenant. Alors, il saute de son cheval blanc. Le cheval blanc disparaît. Maintenant, qu'enfourche-t-il? Un cheval roux. Un cheval rouge de sang. Celui-là, il le montre réellement. Oh, certainement. Il reçoit une grande puissance et une grande épée pour tuer. Alors, il monte son cheval rouge sang. Dans le deuxième sceau qui a été ouvert hier soir, nous avons vu qu'il avait ôté la paix du monde et poussé les gens à s'entretuer. Le propre martyrologue de l'Église catholique romaine montre qu'ils ont mis à mort 68 millions de protestants depuis l'époque de Saint-Augustin d'Hippone jusqu'en 1580 et quelques. 68 millions. Vous pouvez lire cela dans Glorious Reform de Smucker. 68 millions dénombrés dans le martyrologe. C'est à cette époque que l'un de leurs soi-disant saints eut la révélation selon laquelle tous ceux qui sont en désaccord avec l'Église romaine devaient être mis à mort comme hérétiques. C'est cela qui changea leur orientation. Alors il se mit à répandre le sang. Il sauta sur un cheval roux et se mit en marche. C'est alors que vint sa grande puissance. Il fut fait vicaire des cieux et adoré en tant que Dieu. Il fut souverain de toute la terre par l'union de l'Église et de l'État. Il fut fait souverain sur la terre et il lui fut donné une couronne. Il avait le pouvoir de faire sortir les âmes du purgatoire par les prières. Il était exactement comme Dieu sur la terre. Il était mis à la place de Dieu. Avec cela, il avait un grand pouvoir. Celui de mettre à mort quiconque n'était pas d'accord avec ses commandements. Qui aurait osé le contredire? L'Église ne pouvait rien dire, il est la tête. L'État ne peut rien dire, il en est la tête. C'est pourquoi il y en a des millions qui sont morts. Toutes ces petites églises, frères, furent détruites et leurs membres mis à mort, donnés en pâture aux lions et tout le reste. Le dragon, Rome, lui donna son trône et son autorité. C'est la Bible qui le dit. Ainsi donc, il monta son cheval rouge, c'est un type, foulant le sang des hommes, jusqu'à ce qu'il devint réellement un cheval roux, rouge. Maintenant, Jean le voit sur un cheval noir. Il a changé en quelque chose d'autre. Il faut que je vous le dise exactement comme cela m'est venu. Et si ce qui me vient ne concorde pas avec le reste des Écritures, alors ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Voyez, les Écritures devraient être ainsi pour chacun, un tout grand, glorieux et unique. Les Écritures doivent s'accorder avec les Écritures et tout ce qui est contraire aux Écritures. Si cet ange du Seigneur me disait quelque chose qui n'est pas scripturaire, je ne le croirais pas. L'autre jour, j'étais à Chicago avec des centaines de prédicateurs. Quelqu'un d'ici était-il à cette réunion, Chicago? Et j'ai dit, eh bien, vous avez tous parlé entre vous, pensant pouvoir me prendre en défaut sur quelque chose. Nous étions comme maintenant dans cette salle, et j'ai dit, qu'avez-vous contre moi? Il y a 3 jours, le Saint-Esprit m'a montré la place que chacun de vous occuperait, et m'a dit que nous ne serions pas dans l'autre salle. Demandez à Carl, si ce n'est pas vrai. Il y avait aussi Hank et les autres. Et vous êtes là contre mon enseignement. Voilà le problème. Maintenant, je demande maintenant que l'un de vous vienne ici avec sa Bible et se tienne devant moi et démontre la fausseté de ce que j'enseigne. Vous n'auriez jamais entendu un groupe aussi silencieux. Et j'ai dit, voilà le problème. Alors, si vous savez que vous ne pouvez pas vous élever contre la parole, alors laissez-moi en paix. Vous, docteur en théologie et autres qui dites comment faire, qui vous présentez comme docteur, docteur ceci, cela. Oh, frère Woods, je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas passé par un séminaire ou une école, mais prenez votre Bible et tenez-vous à mes côtés, démontrez-moi la fausseté de ce que j'ai enseigné, la semence du serpent, le baptême au nom de Jésus, quoi que ce soit d'autre. Personne n'a dit un mot. C'était le groupe le plus silencieux que vous ayez jamais vu. Je n'ai pas d'idée comment ils crient contre moi. Maintenant, voici, je ne crois pas dans le fait de disputer avec les gens, mais lorsque ce sont eux-mêmes qui vous y entraînent, je n'y serai jamais allé, mais le Saint-Esprit me dit, « Vas-y, je serai avec toi. » 3 ou 4 jours auparavant, je leur avais dit, vous étiez tous là et vous avez entendu M. Carlson et Tommy Hicks et les autres, tous ceux qui étaient assis là. 3 jours auparavant, je leur ai dit, vous allez devoir changer de salle. Ce soir-là, il y avait de l'orage, j'avais une réunion. Le Seigneur m'a dit, va à cette fenêtre, la 3e du bâtiment. J'y allais, je me suis tenu là, j'ai regardé dehors. Il a dit, ils t'ont tendu un piège, ils vont te demander de parler à l'association pastorale du Grand Chicago. Ils t'ont tendu un piège sur l'enseignement que tu donnes de ma parole. Il a dit, ils vont devoir changer de salle. Ils ne pourront louer la salle prévue, ils devront aller dans une autre salle. Il y aura telle et telle apparence, il y aura un signe. Et je me suis vu moi-même dans un coin là, je me suis retourné, j'ai vu tous ces gens, et j'ai vu tous ces prédicateurs assis là, comment ils étaient. Je les ai passés tous en revue. Il a dit, eh bien Seigneur, je ferais mieux de ne pas aller là-bas. S'ils vont faire cela, je ne veux pas blesser les sentiments de personne. Il a dit, non, vas-y. Je serai avec toi. C'est ce qu'il a fait. C'est juste, il y a ici les témoins qui étaient assis là et qui le savent. Et vous avez aussi les bandes, bien sûr. Vous y voilà, voyez-vous. Maintenant, voici le mystère de ce sceau. Il me l'a révélé ce matin avant l'aube. Je me suis dépêché d'aller dans les Écritures et les sonder. Et voilà. Jusqu'à présent, trois d'entre eux m'ont été absolument révélés de manière surnaturelle. Maintenant, voici le mystère du cheval noir selon ce qui m'a été révélé. Il commença à monter ce cheval au temps des âges des ténèbres. C'est ce que représentait le cheval noir, l'âge des ténèbres, car c'était l'heure de minuit pour les vrais croyants qui restaient. Observez maintenant cet âge de l'Église, cet âge intermédiaire de l'Église, cet âge des ténèbres. Notez ce qu'il dit là, tu as peu de force. C'était minuit pour le vrai, pour eux, pour les vrais croyants. Maintenant, pratiquement tout espoir avait été enlevé de la véritable Église. Car ce personnage contrôlait à la fois l'Église et l'État. Qu'allait-il faire? Vous voyez, le catholicisme avait pris possession à la fois de l'Église et de l'État. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le catholicisme étaient mis à mort. C'est la raison pour laquelle il montait un cheval noir. Considérez maintenant les noirceurs de ce qu'il a fait, vous comprendrez. Si vous connaissez votre histoire, considérez ces choses. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de connaître cela pour savoir. Maintenant, tout espoir avait disparu, c'était son cheval droit. Quand il montait son cheval blanc, c'était la ruse. Maintenant, il lui a été donné le pouvoir d'enlever la paix. Ce fut le cheval roux, massacre de millions d'hommes. C'est ce qu'il allait faire en parcourant le monde. Et maintenant, il était sur son cheval noir, l'âge des ténèbres. Fut cette époque où, peu après que l'Église se fut établie et devenue puissante, elle étouffa tout le reste. Et cela dura des centaines et des centaines d'années. Tout comme le lecteur le sait, c'était les âges sombres. Voilà votre cheval noir, représentant cet âge sombre. Maintenant, toute espérance était disparue. Il n'avait plus du tout d'espoir. Tout paraissait sombre au petit groupe de croyants. C'est la raison pour laquelle c'est représenté par un cheval noir. Il tient sa balance dans la main. Voyez? Il dit, une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier. En réalité, c'est le blé et l'orge. Ce sont les choses naturelles de la vie. C'est la base de la vie. C'est avec cela qu'on fait du pain et autre chose. Mais voyez-vous, il faisait payer pour cela. Ce que cela signifie, c'est qu'il faisait payer ses sujets pour cette sorte d'espérance de vie qu'il leur donnait. À cette époque-là, il commençait à leur faire payer les prières. Faire payer pour les prières. Et ils le font encore, avec les neuvaines. Que faisait-il? Capturer les richesses du monde. Quand la balance pesait une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier, le cavalier sur son cheval noir, voyez, il dépouillait ses sujets de leur argent. Lorsque la Bible a prédit qu'il détiendrait l'argent du monde. Nous l'avons vu hier soir au sujet de la Russie et tout cela. Ils prennent tout l'argent et dépouillent simplement les gens de tout ce qu'ils ont, voilà. Remarquez, voyez-vous d'où vient l'argent récolté par l'Église? Éloignez-vous de ces choses. Construire une organisation, quelque chose de grand à coût de millions de dollars. Voyez-vous quelle en est la mère? Merci Seigneur. Oh là là, je suis si heureux. Oui, monsieur. Très bien. C'est sa grâce. Très bien. C'est l'heure de minuit, comprenez-vous maintenant? Et il est ici. Il fait payer pour une sorte de vie. C'est l'orge, etc. Naturel. Ce n'était pas spirituel, c'était l'orge. Du pain d'orge et du pain de blé. Il faisait payer pour ce genre de vie qu'il offrait à ses sujets. Il faisait payer pour les prières par le prêtre, afin de faire sortir les gens du purgatoire. Il faisait payer. Je prends ça dans l'histoire. Je pense que c'est pour des neuvaines. Je pense que vous savez tout cela. Je pense qu'une neuvaine, c'est quelque chose que vous devez faire, une pénitence. Quelqu'un doit payer pour cela. On apporte la richesse du monde à lui-même, dans l'Église, et il continue de chevaucher son cheval. Oh, certainement, oui. Oui, monsieur. Il est toujours sur son cheval. Voici maintenant la bonne part. Remarquez. Ne fais point de mal au vin et à l'huile. Il n'y a plus qu'un petit reste, frère. N'y touche pas. Maintenant, l'huile symbolise l'Esprit, le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques passages des Écritures si vous voulez. Dans Lévitique 8, 12, Aaron, avant d'entrer, devait être oint d'huile, vous le savez. Dans Zacharie 4, 2, l'huile coule à travers les conduits. Il a dit, « Ceci est mon Esprit, l'huile. » Et il y a encore d'autres choses dans Matthieu 25. Il y avait les vierges folles, 25, 3, les vierges folles n'avaient pas d'huile, pas d'esprit. Matthieu 25, 4, les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes. Elles étaient remplies de l'esprit. L'huile est le type de l'esprit. Oh, gloire! Très bien. Vous avez saisi? Très bien. Maintenant, l'huile typifie l'esprit et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'ai envie de courir dans cette salle. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le voisinage quand le Seigneur m'a montré cela. La stimulation de la révélation. L'huile et le vin sont associés ensemble, toujours dans la Bible. J'ai pris la concordance et j'ai vu qu'il y a toute une série de passages à ce sujet où le vin et l'huile sont toujours ensemble. Quand la vérité d'une promesse, une parole de Dieu promise, a été véritablement révélée à ses saints, remplis de l'huile, ils sont tous stimulés. Le vin est une stimulation. Gloire! Je le sens maintenant même. Stimulé avec la joie, des cris. Et à ce moment-là, ça a le même effet sur eux que le vin sur un homme naturel. Lorsque la révélation d'une vérité a été donnée de Dieu et que le vrai croyant rempli d'huile et que la révélation est révélée, la stimulation devient si grande qu'elle le fait se comporter d'une manière anormale. C'est vrai. Gloire! Voilà ce qui se passe avec nous maintenant. C'est juste. Ça vous fait vous comporter d'une manière peu convenable. Si vous voulez les Écritures pour ceci, commencez à lire dans Actes 2. Oh oui, ils avaient reçu la promesse qui leur avait été donnée. Lorsque la promesse du Saint-Esprit se fut répandue sur eux et confirmé scripturairement que ce serait-il passé s'il avait dit « Attendons, il nous a dit d'attendre ici pour recevoir notre ministère et qu'au bout de 8 jours, Marc aurait dit à Matthieu, « Eh bien, frère, je vais te dire, je crois que nous l'avons déjà reçu, ne penses-tu pas, nous l'avons déjà reçu. Pourquoi attendons notre ministère? Nous devrions simplement sortir, aller prêcher. Ça fait maintenant 8 jours. Eh bien, attendons encore un jour. 9 jours sont passés. Alors Marc se lève, ou peut-être quelqu'un d'autre, Jean, il dit, je crois que nous ne devrions pas attendre plus longtemps, je crois que nous l'avons déjà reçu, n'est-ce pas? Et je peux voir Simon, c'est lui qui avait les clés. Attendez une minute, les gars, les Écritures ont quelque chose à dire. Il nous a jamais dit combien de jours nous devions attendre, il a dit, restez là jusqu'à ce que... Restez là jusqu'à ce que la prophétie de Joël s'accomplisse. Jusqu'à ce que la prophétie d'Ésaïe soit confirmée. Car c'est par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Et ceci est le rafraîchissement. C'est le vin qui a été versé. Le vin, le rafraîchissement. C'est le rafraîchissement qui vient de la présence du Seigneur. Ça doit être scripturaire maintenant, voyez. Ainsi, vous voyez que le vin représente la stimulation de la révélation. Et lorsque le Saint-Esprit est tombé, ils ont vu le feu de Dieu descendre sur eux. Oh, mes frères, cela a commencé à les stimuler. Ils furent tellement stimulés que les gens pensaient qu'ils étaient ivres. mais ils étaient stimulés par la révélation. Voici la révélation confirmée de Dieu leur fut rendue évidente et ils en furent si heureux. Dieu l'avait promis. Cela leur a été révélé et confirmé. Alléluia. Il y avait un homme qui se tenait là et qui dit, c'est cela, c'est ça. Cela fut confirmé par le même signe. La stimulation par la révélation. La stimulation par la révélation. Et maintenant, il l'avait réellement reçu. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, vous, hommes de Judée, et vous qui demeurez à Jérusalem, écoutez-moi, vous tous, docteurs en théologie, écoutez ce que je vais vous dire. Oh, comme c'est merveilleux. Révélez. Cette révélation les stimula tellement lorsqu'ils virent les promesses confirmées. C'est toujours ainsi. Toujours. J'ai vu que Dieu avait promis de faire une certaine chose en ce jour-ci. Quand il a promis de briser ses sceaux dans le dernier jour. Et vous ne pouvez pas connaître la joie et la gloire. Quand je l'ai vu révéler ceci alors que je me tenais là et que j'observais, sachant que je charge chacun de la responsabilité de reconnaître qu'il ne nous a jamais rien dit, ne soit arrivé de la manière qu'il a dit. C'est pourquoi voyez la joie qui est dans mon cœur lorsque je vois s'accomplir sa promesse pour ces derniers jours comme il a promis de le faire et que je la vois confirmée et parfaitement réalisée. Lorsque vous m'entendez dire « je me sens religieux », eh bien c'est ce qui se passe. C'est la stimulation. Ça devient tellement fort que je me sens presque obligé de m'arrêter. Vous savez, c'est la stimulation qui vient de la révélation. Très bien. Ils furent tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé, très bien, la promesse. Voilà là. La joie de la stimulation a éclaté au point où les gens disaient, ils sont pleins de vin nouveau. Lorsque Dieu révèle sa promesse, il ne l'a pas seulement révélé, mais il l'a prouvé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un homme peut dire ce qu'il veut, il peut, mais quand Dieu descend et qu'il le confirme, maintenant la Bible dit, s'il y a quelqu'un parmi vous qui prétend être spirituel ou prophète, si ce qu'il dit ne se réalise pas, alors ne l'écoutez pas, n'y faites pas attention, ne le craignez pas du tout. Ne craignez point un tel homme. Mais si ce qu'il dit se réalise, c'est moi. Je suis là-dedans. Ça prouve que c'est moi. Il y avait une femme samaritaine. Les Écritures disaient que le Messie ferait ces choses. Il était là, confirmant exactement ce que les Écritures. Alors il a dit, c'est ça. Venez voir un homme. N'est-ce pas exactement ce que les Écritures ont dit qui arriverait? Voyez-vous, elle fut stimulée par la révélation. N'est-ce pas vrai? Elle fut stimulée par la révélation lorsque celle-ci fut confirmée. C'est juste. Elle savait, nous savons que le Messie doit venir et qu'il s'appelle le Christ. Et lorsqu'il viendra, il fera ces choses. Elle a vu cela. Et il a dit, c'est moi. Alors la stimulation a commencé à agir. Et la femme est partie. En criant, elle est allée dans la ville, elle a laissé sa cruche, elle est allée dire aux hommes, venez voir. Si vous connaissiez les traditions orientales, vous sauriez qu'elle faisait quelque chose de mal à ce moment-là. Elle ne devait pas le faire. Personne n'écoute une femme de ce genre. Non, monsieur. Voyez-vous, elle était marquée. Et quand elle est descendue dans la rue, elle s'est mise à agir comme cela. L'homme de la rue ne lui prête aucune attention. Mais frère, elle avait une parole de vie. Elle était stimulée. C'est comme si on avait voulu éteindre un incendie par un jour de vent. Oh, quelque chose attisait le feu. Elle était prête. Et personne n'aurait pu éteindre ce feu, c'était le feu de Dieu. Il a dit, si vous ne croyez pas que c'est ainsi, alors venez simplement voir Roustien à la réunion et je vous montrerai. Oui, monsieur. Et ainsi, les hommes sont allés là, et ils ne répétaient pas ce qu'ils avaient déjà fait, mais ils surent que quelque chose était arrivé à cette femme. Elle était changée, alors ils crurent en lui, certainement, parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, les promesses de la parole de Dieu. Observez comment elle est rendue réelle, parce que c'est une semence, et quand elle est semée, elle prend la vie, elle produira exactement ce dont il parle. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas une semence de Dieu. Ou alors, c'est que le semeur n'a pas su la semer. Il n'était pas envoyé par Dieu pour semer la semence. Il se pourrait qu'il l'ait semée sur un rocher ou quelque chose comme ça. Mais quand le semeur sème la semence, Dieu en prend soin si elle tombe au bon endroit. Oh là là! Alors, qu'est-ce qu'il est dit à ce cavalier en noir? Ne fais pas de mal à mon vin et à mon huile. Ne touche pas à cela. Mon vin et mon huile. Je n'en ai pas beaucoup là sur la terre, mais il y a encore un petit peu. Maintenant, tu peux aller mesurer cette sorte de vie que tu proposes. C'est ton affaire. Tu paieras le prix pour ça. Mais quand tu rencontreras ce vin et cette huile, laisse ça tranquille. Oh là là. Si tu trouves quelques-uns de mon petit troupeau qui sont remplis de mon huile et de mon vin, du vin et de l'huile, de la pure parole, et que tu t'apprêtes à les tuer, parce que c'est ce que tu fais, ne les oblige pas à dire des « Je vous salue Marie » ou n'importe quoi d'autre, ou à proclamer tes credos. Garde tes mains de ça. Ils savent où ils vont, car ils sont loin de mon huile. Et étant loin de mon huile, ils ont le vin de la joie, parce qu'ils connaissent ma parole de la promesse, et je les ressusciterai. Ne fais pas de mal à cela. N'essaye pas de les faire tomber. Tiens-toi éloigné d'eux. Oh, il confirme sa parole. Ils savaient qu'il ressusciterait. Oh, comme j'aime cela. Ils ressusciteront. Voici le cheval noir qui s'avance dans l'âge des ténèbres. Le cheval blanc a passé. Vous avez vu ce qu'il a fait. Voici le cheval roux. Nous avons vu exactement ce qu'il a fait. Voici que vient le cheval noir. Et vous voyez, le même cavalier tout le temps, parcourir les âges. Maintenant, nous découvrons qu'il a mesuré et fait payer exactement le blé. Naturel, le type de la vie naturelle, c'est de cela qu'il se nourrissait. Symbolisant l'esprit, c'est l'huile, et la joie, le vin, la vie spirituelle. Ne fais pas de mal à cela, laisse ça tranquille. Autrement dit, Rome, n'y touche pas, ils m'appartiennent. Cela m'appartient. Je veux que vous remarquiez encore autre chose. Ce n'est pas l'un des quatre êtres vivants qui a dit « Ne touche pas à l'huile et au vin ». Avez-vous remarqué ça? Les quatre êtres vivants ont parlé. Mais regardez. Laissez-moi lire ici un passage. Une mesure de froment pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Et fais attention à ne pas nuire à l'huile et au vin. Et j'entendis une voix au milieu des quatre animaux. Qui était-ce? L'agneau! Ce n'était pas les quatre êtres vivants. C'est l'agneau qui a parlé. Pourquoi? Il va chercher les siens, ceux qui lui appartiennent. Amen. Ne touchez pas à cette huile, mais monsieur, pas les quatre êtres vivants, mais c'est l'agneau qui a dit cela. Oh là là. L'agneau, pas les quatre autres vivants qui ont proclamé cela. C'est l'agneau lui-même. Quand les quatre êtres vivants dirent, viens et vois, ils allèrent voir, mais c'est lui qui a dit, une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'os pour un denier, et ça, quand lui qui s'écrit au milieu d'eux, ne fait pas de mal. Ne fait pas de mal au vin et à l'huile. C'est vrai. Oh là là. Écoutez, ne leur fais pas de mal, sinon tu vas payer pour cela. Oh là là. 9h30. Eh bien, au mieux de ma compréhension et au mieux de ma connaissance et avec tout ce que je crois dans mon cœur, c'est la véritable signification de ces trois sceaux. Et je désire remercier Dieu pour cela. Et je dirai ceci, c'est la révélation qu'il m'a donnée. Il m'a donné cela à moi, la révélation. Et je crois que nous vivons dans les derniers jours. Demain soir, nous prendrons le cavalier au cheval pâle. Et maintenant, je ne sais pas. Dieu sait que c'est vrai. Je ne sais rien du tout à ce sujet. Non. J'ai regardé des vieilles notes que j'avais prises il y a des années. Je voulais voir ce que j'avais dit à cette occasion. J'avais aperçu Frère Green Snelling. J'avais examiné l'Apocalypse en ce temps-là et j'avais pris les quatre cavaliers en même temps. J'avais dit alors, le cheval blanc, c'est sans doute l'Église primitive. J'avais lu cela dans le livre des Adventistes et d'autres. J'avais dit, c'est l'Église primitive qui s'avance pour conquérir. Et ensuite, il y a le cheval noir. J'ai dit, j'avais appelé... C'était plutôt le cheval roux. Ce cheval signifie probablement qu'il y aurait des troubles sur la route et quantité de guerres, quelque chose comme cela. J'avais dit quelque chose comme cela. Il y aura probablement beaucoup de guerres. C'est ce que ce sera. Ensuite, j'ai dit, le cheval pâle, le cheval noir, ça veut dire qu'il y aura peut-être un temps de ténèbres sur la terre lorsque les étoiles cesseront de briller, que le soleil et la lune ne donneront plus leur lumière. Je disais, c'est probablement ça que ça veut dire. J'avais aussi dit, le cheval pâle signifie qu'il y aura beaucoup de maladies. Je ne sais pas ce que ça signifie. C'était mon interprétation d'alors. Et du haut de la chair, j'avais présenté ces choses au mieux de ma connaissance. Mais bon, j'ai presque dit quelque chose. Très bien. Vous allez voir. Maintenant. Oh, ne sommes-nous pas heureux pour cette heure? Quand je vois toutes ces choses qui s'approchent, je pense, les nations s'écroulent, Israël se réveille, les signes annoncés par les prophètes, les jours des nations sont comptés, remplis d'effroi, retournez vers les vôtres, vous qui êtes dispersés. Le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes défaille de frayeur. Soyez remplis de l'Esprit, que vos lampes soient entretenues et claires. Levez les yeux, votre rédemption approche. Voilà là. Les faux prophètes mentent. Ils nient la vérité de Dieu, que Jésus le Christ est notre Dieu. Voyez-vous cela? Mais nous marcherons sur les pas des apôtres. Car le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes défaille de frayeur, fait défaut. Soyez remplis de l'Esprit. Vos lampes nettoyées, claires. Levez les yeux. Votre rédemption approche. N'est-ce pas merveilleux? J'aime cela. La rédemption est proche. Et il y aura de la lumière au temps du soir. Le sentier de la gloire, vous le trouverez certainement. C'est dans la voie de l'eau que la lumière aujourd'hui, ensevelie dans le précieux nom de Jésus, jeunes et vieux, repentez-vous de tous vos péchés. Le Saint-Esprit entrera certainement. La lumière du soir est venue. C'est un fait que Dieu et Christ sont un. C'est la parole. Oh là là, merveilleux. Bientôt l'agneau prendra son épouse pour qu'elle soit toujours à son côté. Toutes les armées des cieux seront rassemblées. Oh, ce sera une vision glorieuse. Tous les saints vêtus de blanc immaculé feront avec Jésus une fête éternelle. Viens au repas, le maître appelle. Viens au repas. Vous pouvez vous réjouir à la table de Jésus tout le temps. C'est lui qui a nourri la multitude, a changé l'eau en vin. Il appelle les affamés. Viens au repas. Viens au repas. Le maître appelle. Viens au repas. Nourrissez-vous de la parole. Vous pourrez vous réjouir à la table de Jésus tout le temps. Lui qui a nourri la multitude. Il a changé l'eau en vin. Il appelle les affamés. Viens au repas. Oh là là. Avez-vous faim? Bénissons ceux. L'aimez-vous? Levons-nous tous simplement, levons les mains et exprimons notre reconnaissance. Je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier. Tous ensemble maintenant. Soyez respectueux, nous avons un interprète ici, Frère Higginbottom. Ma foi est élevée. Aimez-vous le Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donnons-lui la louange.
Baptismal services tomorrow night at 6:30, possibly a few minutes before that.